Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver sur RMC pour l'Intégral Sport. Un Intégral Sport exceptionnel puisqu'on est en direct toute la journée, en direct de l'Hippodrome de Vincennes, studio RMC délocalisé tout l'après-midi. Parce qu'aujourd'hui c'est le Prix d'Amérique, Legend Race, la course mythique du trot qui existe depuis 1920. On attend beaucoup beaucoup de spectateurs ici à l'Hippodrome de Vincennes. Donc venez nous faire un petit coucou, on est avec Sébastien Piocelle. Salut Sébastien.
Salut François, bonjour à tous.
T'es bien toi ici dans cet Hippodrome de Vincennes?
Ouais, c'est pas trop mon dada normalement mais... voilà, je suis plus football, mais ouais, non, je suis content d'être là.
16h20, le départ de cette 103e édition de ce Prix d'Amérique Legend Race. On va en parler tout au long de l'après-midi, bien sûr. L'Intégral Sport, bien évidemment, avec au programme du tennis. Dans un instant, on sera à Melbourne pour retrouver Eric Salio, qui vit en ce moment la très très jolie finale entre Sinner et Medvedev. 2-7 partout entre les deux hommes. Mais d'abord, le football, la Ligue 1, avec Montpellier face à Lille. C'est le match de la 19e journée de Ligue 1. Et c'est Julien Landry qui est au commentaire pour RMC. Salut Julien.
Salut François. Salut Seb, parti depuis une minute à la Mosson avec un coup d'envoi donné d'abord par Arthur Cazot, supporter de la première heure de la paillade, héros à Melbourne qui avait atteint les 8e de finale et qui est donc venu donner le coup d'envoi avec beaucoup beaucoup d'émotion. On sent qu'il a réalisé quasiment un rêve d'enfant, Arthur Cazot, sur la pelouse. Coup d'envoi depuis une minute, 0-0 entre les deux formations. Les Montpellierains, qui n'ont gagné qu'une seule fois cette saison à la Mosson, c'était contre le TFC, veulent renouer avec la victoire pour s'éloigner doucement de la zone rouge. Les Lillois, eux, veulent confirmer leur place dans le top 5. 1 minute 30, 0-0 à la Mosson.
J'ai un petit message pour toi Julien de la part de Geoffrey Jourdren. Tu connais évidemment.
Oui, évidemment. L'ancien gardien de Montpellier. Ah oui.
Figure-toi qu'il est à Vincennes aujourd'hui.
Je sais,
il est venu me voir. Il m'a dit tiens, et tu passeras le bonjour à Julien Landry. Voilà.
Effectivement, il m'en avait parlé. Qu'il voulait venir à voir ce magnifique événement. Il est fan de chevaux aussi, Geoffrey Jourdren.
Voilà, l'ancien gardien de Montpellier qui nous écoute peut-être. Donc qu'il n'hésite pas à revenir dans le studio RMC.
Champion de France 2012.
C'est puisqu'il est passé. Bien sûr, Geoffrey Jourdren. Du foot au programme, bien sûr, aussi tout à l'heure à 15h avec Reims-Nantes, Clermont-Strasbourg et Lorient-Le Havre. Et puis à 17h05, Toulouse-Lens avant le choc du jour, 20h45, PSG. Et Brest, toutes ces rencontres à suivre en direct sur RMC, bien sûr, avant l'after foot. Dimanche exceptionnel aussi sur RMC, puisque l'on suit actuellement la fin de la finale entre Sinner et Medvedev. C'est du tennis à Melbourne, l'Open d'Australie. Quand je dis la fin, Eric Salio, ça peut encore durer un peu longtemps. Hein.
Oui, on peut estimer peut-être à encore une heure de jeu, hein, puisque les deux garçons vont tout donner dans cette cinquième manche décisive. Je rappelle le scénario, jeu de mots qui m'a été lâché par un confrère suisse. C'est pas de moi. Hein. Scénario assez incroyable avec un Medvedev qui part comme un fou, comme dans un sprint, 6-3, 6-3, et qui commence à décliner. Et Sinner est parvenu donc à recoller il y a quelques minutes à deux manches partout. Et c'est Sinner, l'Italien, qui va avoir la chance peut-être de faire la course en tête dans cette cinquième manche décisive. 1-0 pour Sinner. Je rappelle que Medvedev a déjà perdu une finale ici à Melbourne en ayant mené 2-7-0. Je crois que tout le monde s'en souvient, c'était face à Rafa Nadal.
C'est une belle finale en tout cas que l'on vit sur RMC, et on va continuer de la vivre ensemble Eric, même si ça dure une heure, tu restes avec nous bien sûr. Dimanche de sport exceptionnel également, puisque à 17h45 vous pourrez suivre la finale des championnats d'Europe de handball. Les Bleus qui ont été renversants contre la Suède affrontent leur meilleur ennemi, les Danois, triple champion du monde en titre. Une magnifique affiche dont on parlera bien sûr d'ici une heure. Mais je vous l'ai dit, studio délocalisé entre 13h et 19h pour cet événement à Vincennes, à l'Hippodrome de Vincennes, le Prix d'Amérique Legend Race. C'est vraiment l'effervescence parce que c'est l'une des plus grandes courses de l'année. On est avec Frédéric Kita. Salut Fred.
Salut François, salut Sébastien, salut à tous.
Je peux vous dire que Fred Kita là, il est en cravate et il est magnifique.
On dénote un peu nous là.
Non mais là c'est vrai que bon, il y a des codes hein, mais tu es très beau.
Il y a des codes effectivement. Alors c'est un peu plus au galop, c'est vrai.
Mais ça te va bien la cravate.
Merci beaucoup. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit François, c'est tout simplement la plus belle course de trois attelés au monde. Elle se dispute tous les derniers dimanches du mois de janvier et qui réunit souvent de nombreux spectateurs. Entre 30 000 et 40 000 spectateurs sont attendus sur l'hippodrome de Vincennes pour assister à cet événement qui a donc lieu à 16h20 et qui sacrera donc le meilleur cheval au trot attelé de l'année.
Et puis il y a des gens qui viennent de partout. Hein. J'ai entendu dire qu'il y avait des Canadiens. On a croisé quelques personnes voilà, qui viennent.
C'est vrai, c'est une course où beaucoup d'étrangers viennent. Beaucoup de visiteurs viennent à cette occasion. On a beaucoup de Scandinaves, des Suédois qui auront d'ailleurs des représentants dans cette compétition, des Italiens. Tu as eu aussi rencontré donc des Canadiens, des Américains. Mais voilà, c'est vraiment une compétition qui rassemble les foules, qu'ils soient à la fois des Français ou même des étrangers.
Et on va se régaler, bien sûr. On va revenir avec toi, Fred, et avec toute l'équipe des courses RMC sur les favoris, sur le plateau magnifique de ce Prix d'Amérique Legend Race. Donc on l'a dit, à 16h20 en direct. Mais nous, on en reparle d'ici 40 minutes. On sera ensemble pour en parler avec aussi un driver qui sera là.
Effectivement, avec Anthony Barrier, oui. Qui ne sera pas au départ du Prix d'Amérique, mais qui a déjà couru cette belle épreuve. Donc on se retrouve tout à l'heure pour en parler.
À tout à l'heure, Fred, pour ce Prix d'Amérique en direct, donc dans ce studio RMC délocalisé pour l'occasion, vous l'avez compris, à l'hippodrome de Vincennes. On va aller du côté de Montpellier, Julien. Montpellier-Lille, c'est le premier match de ce dimanche de la 19e journée de Ligue 1, des Montpelliérains et des Lillois qui pour l'instant sont toujours à 0-0, mais ça vient tout juste de commencer, Julien.
Ça vient de commencer avec un arrêt de jeu pour un gros contact entre Gudmundsson et Estève. Alors, pas de faute, les deux joueurs qui se sont engagés pleinement à la récupération de ce ballon. Estève qui est resté longuement seul, qui vient d'ailleurs de sortir, mais qui va revenir. La première situation, elle a été pour les Montpellier, sur une excellente récupération de Joris Chautard. Il a lancé à Cor Adams, qui a dévié pour Wahbi Khazri. Il y a peut-être mieux à faire pour Wahbi Khazri sur ce coup-là, qui a lancé derrière, après à Cor Adams en position de hors-jeu. Mais voilà, on sent la physionomie Seb qui va se dessiner en cette partie, la possession pour les Lillois probablement, et les Montpelliérains qui vont essayer d'opérer en contre avec les flèches Nordin, Khazri, Adams, avec à la baguette Téjus Savagnier évidemment. Mais c'est vrai que cette première situation, il y avait sûrement mieux à faire pour Wahbi Khazri. C'est minute 0-0.
Non, effectivement, par rapport à l'animation mise en place par Michel Dazarcaré, on sent que les Montpelliérains vont jouer en contre, en transition rapide. C'est vrai que les Lillois, on s'en habitue à avoir le ballon, et c'est vrai qu'il y aura aussi des espaces pour les Montpelliérains. C'est pour ça que lors des certaines situations, il faudra bien les jouer, parce qu'on sait que les Lillois aussi peuvent être chirurgicaux aussi dans les 20 derniers mètres adverses. Attention à Estève aussi, qui se blesse pas. Il est en instance de départ.
Ah oui, c'est ce que je me disais. C'est quand même un risque un peu peut-être surpris, de le faire jouer.
Ouais, alors est-ce qu'il va partir ou pas? Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'était pas forcément annoncé dans le 11 de départ. Mais oui, s'il est partant après le match, c'est un petit peu risqué. Ouais,
suivi par Burnley du côté de l'Angleterre. Alors Montpellier n'a pas fermé la porte. Montpellier a besoin d'argent. Donc si la somme espérée répond aux attentes, les Montpelliérains laisseront partir Estève. Mais Michel Dazarcaré l'avait annoncé vendredi. Pour moi, il est là, il jouera dimanche. Alors évidemment, c'est un risque s'il se blesse, mais voilà, Michel Dazarcaré comptait sur son défenseur central, parce qu'on rappelle qu'il manque 6 joueurs à Montpellier retenus par la CAN, notamment Kiki Kouyaté, qui occupait ce poste en défense logiquement. Donc il n'y avait pas non plus beaucoup de choix pour Michel Dazarcaré, mais oui, Maxime Estève fera partie des dossiers à suivre en cette fin de mercato côté Montpellier.
Il y a un vrai besoin de points aussi pour Montpellier. C'est chaotique à domicile.
Une seule victoire contre Toulouse.
Ouais. Et on sait que Lille est un peu la bête noire ces dernières années de Montpellier.
13h07 sur RMC en direct de l'hippodrome de Vincennes, où l'on voit passer d'ailleurs des artistes sur des échasses, Sébastien, tu vois,
défenseurs centraux,
drapeau américain. Oui, hein, ils sont très très grands là, très très grands, effectivement, ça peut servir, mais c'est pas toujours évident, c'est toujours impressionnant de les voir sur ces échasses. N'hésitez pas à venir nous voir sur le studio RMC, on est ensemble jusqu'à 19h, studio délocalisé pour l'occasion, vous l'avez compris, pour cette occasion unique, ce Prix d'Amérique, la plus grande course de trot du monde, que l'on suivra à 16h20 sur RMC. Mais comme tous les dimanches à cette heure-là, c'est l'heure du Mag Olympique.
RMC, en route pour Paris 2024.
180 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, 213 jours avant les Jeux Paralympiques, et comme tous les week-ends, eh bien on vous donne des nouvelles des athlètes français, les derniers résultats, on vous fait découvrir celles et ceux qui feront Paris 2024 cet été, et puis on a les meilleurs invités, bien sûr. Dans un instant d'ailleurs, il y aura le journal olympique de Morgane Maury, mais d'abord on est très heureux d'accueillir Sophie Dubourg, directrice technique nationale de la Fédération Française d'Équitation. Bonjour Sophie Dubourg.
Bonjour.
Vous êtes en poste depuis 2013 et à Paris, et ben ce sera donc vos troisième Olympiades, puisque vous avez connu le succès à Rio en 2016 avec 3 médailles, dont 2 titres olympiques. La déception aussi de Tokyo en 2021, une seule médaille pour le clan tricolore. 3 ans après, j'imagine que vous avez tiré les leçons pour justement réussir ces Jeux Olympiques à Paris.
Oui, tout à fait, c'est le bénéfice de l'expérience, des cavaliers aussi. Nous, on a une maturité sportive, une quarantaine d'années en moyenne pour nos sportifs, pour nos cavaliers, des chevaux aussi et des couples très aguerris. Je crois que tout le monde a envie de performer à Paris, à Versailles pour nous, pas seulement d'être là, mais vraiment de performer. Donc on a pu effectivement tirer le bénéfice de toutes les expériences, très bonnes ou mauvaises, et je pense qu'on est bien en ordre de marche.
Une compétition qui aura lieu dans un cadre majestueux, hein, ça sera le château de Versailles pour décor de cette compétition d'équitation. Donc au-delà de la performance, j'imagine qu'il y a également une question d'image pour l'équitation française.
Oui, complètement, ça va être magnifique. On a la chance d'avoir un organisme, JL Event Equestrian Sport, avec un groupement et la Fédération Française d'Équitation pour porter cette organisation sportive. Donc on est très confiant sur le confort pour nos athlètes chevaux aussi, parce que c'est important, tous ces espaces verts pour eux, ces zones de broutage pour le mental, pour physique. Donc je crois qu'on va offrir aux téléspectateurs et aux spectateurs sur place de très belles images de sport.
Sophie Dubourg, directrice technique nationale de la Fédération française d'équitation, en direct avec nous dans l'Intégral Sport à 13h10. Il y a 6 titres en jeu pour les JO, dressage, concours complet, saut d'obstacle en individuel et par équipe. Alors évidemment, la question qu'on vous pose régulièrement depuis plusieurs mois, quel est l'objectif chiffré pour l'équipe de France ?
Alors, faut pas oublier le Paralympique aussi. On a aussi des médailles, hein, possibles équipes et individuelles. Nous, on porte vraiment une seule équipe. Moi, je veux juste rappeler que très peu de médailles sont décernées, hein, finalement, hein, puisqu'on a une seule catégorie par discipline et un sport mixte. Hommes et femmes concourent dans les mêmes épreuves. Notre objectif chiffré, c'est toujours difficile de s'avancer, mais on espère au minimum une médaille équipe en concours complet, une médaille équipe en saut d'obstacle. Pourquoi pas les médailles individuelles, ça c'est toujours un peu le format équipe qui va nous renseigner. En dressage, on est un petit peu loin du podium et on va essayer de figurer dans un top 8. Et en paradressage, on espère aussi des médailles plutôt en individuel.
Vous avez annoncé plusieurs couples, puisqu'on parle de couples, hein, le cavalier et son cheval, de couples sélectionnables, c'était en novembre dernier. Mais la sélection, oui, elle n'est pas figée, elle peut encore évoluer.
Complètement, on a des listes pas très longues, parce qu'on a une dizaine de couples en concours complet, en saut d'obstacle, et 5 ou 6 en paradressage et dressage. Donc ce sont déjà des listes courtes, mais ça nous permet de mettre des moyens vraiment démultipliés sur ces couples-là, de faire un focus sur les sélectionnables, surtout sur les médaillables. Et bien sûr que c'est pas figé. Quand on a un couple qui performe dans les derniers mois et avec nos animaux, vraiment ça peut arriver, une connexion qui se fait rapidement. Aussi des couples qui contre-performent et qu'on va sortir. Donc non, c'est pas figé. Et notre sélection, c'est le 5 juillet, portée au comité olympique et puis paralympique. Donc jusque-là, tout reste ouvert.
Et parmi, en plus, les sélectionnables, il y a des noms que l'on connaît, des champions olympiques comme Karim Lagouag, Astier Nicolas, Roger Yves Bost également, Nicolas Touzin, qui a été champion olympique aussi en 2004. Oui. Voilà, il y a du beau monde, évidemment. 13h12 sur RMC, je vous rappelle qu'il y a 0-0 entre Montpellier et Lille. On retourne à la Ligue 1 dans un instant. Il y a également 2-7 partout entre Sinner et Medvedev lors de la finale de l'Open d'Australie de tennis. On y reviendra, bien sûr. On est avec Sophie Dubourg, directrice technique nationale de la Fédération française d'équitation. Donc, pour tous les enjeux de l'équitation aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. On a parlé des sélectionnables. Il y a un cas particulier, Sophie Dubourg, Kevin Stowe, champion olympique à Rio, qui est en procès avec son ex-compagne, elle aussi cavalière. Ils s'accusent mutuellement de violence conjugale. Le procès se tenait d'ailleurs à Lisieux il y a 10 jours et la décision a été mise en délibéré le 22 février prochain. S'il est reconnu coupable, Kevin Stowe, est-ce qu'il pourra faire partie de l'équipe de France d'équitation ?
Écoutez, ça, je suis pas seul décisionnaire, hein. C'est d'abord une commission discipline. C'était sous l'égide de la Fédération internationale, ces événements-là. Jusqu'à cette date du 22 février, de toute façon, tout le monde est, en tout cas, les deux parties sont présumées innocents. On est très prudents. Mais il est certain que s'il est coupable, bien sûr que on avisera et au plus rapide, avec d'abord la Fédération internationale, sa décision, et en réciprocité, la Fédération nationale.
Alors pour tous les amoureux de l'équitation, ils peuvent aller à Bordeaux puisqu'il y a le jumping international à partir de jeudi prochain. Et c'est aussi une occasion, j'imagine, pour vous, peut-être d'affiner la sélection, de se préparer en tout cas pour les cavaliers et leurs chevaux aussi.
Complètement, toujours, c'est un événement très plébiscité, c'est une étape de la Coupe du Monde pour nous. Tous les cavaliers en liste olympique seront présents, aussi bien en concours complet qu'en obstacle, parce qu'il y a une épreuve cross-indoor avec quelques cavaliers aussi sur cette liste-là. Donc bien sûr, ça nous permet aussi de faire un peu la revue des troupes sur l'état mental, physique, Posturologie pour les chevaux aussi, la maréchalerie, on a un maréchal qui les suit au plus près, on a un physio équin. Donc tout ce qu'on déploie pour les athlètes que vous pouvez connaître dans d'autres sports, on le déploie aussi auprès de nos chevaux. Donc ça permet aussi à tout ce staff d'être présent sur ces événements-là et de continuer d'accompagner nos cavaliers et nos chevaux.
Sophie Dubourg, une dernière question, puisqu'en tant que DTN de la Fédération Française d'Équitation, vous faites partie des signataires d'une lettre ouverte pour défendre la ministre de l'Éducation et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a connu des débuts en tant que ministre de l'Éducation compliqués. Pourquoi avoir voulu signer cette lettre ouverte ?
Alors, tout simplement témoigner de tout ce qu'a pu nous apporter notre ministre. Moi, ça fait plusieurs années que je suis en poste et vraiment... des actions, des missions, des interventions très constructives pour nous. Après, chacun est libre de soutenir ou pas. Et c'était témoigner notamment à nos collègues de l'Éducation nationale que cette femme et ses compétences ont beaucoup apporté à notre corps de cadre technique et surtout de DTN.
Voilà, d'autres dirigeants du sport français ont également signé cette lettre ouverte que vous pouvez retrouver d'ailleurs, toutes ces informations sur rmcsport.fr. Sophie Dubourg, merci beaucoup d'être passée dans le MAG Olympique sur RMC.
Et avec
on suit évidemment, bien sûr, les sélections pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, à ne pas oublier, avec des bonnes chances de médailles françaises. Merci beaucoup. On va faire un point à 13h15 sur RMC, sur Montpellier-Lille. Le temps, le score avec toi, Julien Landry, 19e journée de Ligue 1.
16 minutes à la Mosson et les grosses premières situations pour les Montpellier, hein, notamment par Nordin et TJ Savagnier. Une fois, c'est les défenseurs, une fois Lucas Chevalier qui ont empêché les Montpellierains d'ouvrir le score, dominé, mais les plus dangereux depuis le début de cette partie. François, 16 minutes à la Mosson, 0-0.
Et puis le point sur cette finale, Sinner Medvedev, finale de l'Open d'Australie en tennis, Eric Salio.
2-7 partout entre Yannick Sinner et Daniil Medvedev. 3 jeux à 2 pour l'Italien dans le 5e et dernier set. Et pas de break. Et on vient de voir passer une stat assez incroyable. Daniil Medvedev a passé plus de 24 heures sur les cours depuis le début de la quinzaine. Est-ce qu'il va tenir ? C'est la grande question.
Pas d'affilée, hein, heureusement. Parce que ça, c'est
non, bon. Pas d'affilée. Merci de préciser.
Du coup, s'il est sur les cours, toi aussi, hein, toi aussi, tu vas battre des records peut-être, hein, de présence à l'antenne. En tout cas, tu restes avec nous, Eric.
24 multiplié par 24.
Oh là là, ça va commencer 5, à chiffrer. Là.
Multiplié
oh là
par là 14,
là.
Faites le calcul.
Oh là là, arrête. Oh, les patrons des RMC, là, ils en peuvent plus. Allez, tout de suite, on revient dans l'intégral sport pour, bien sûr, c'est direct. Et puis, on est en direct de l'hippodrome de Vincennes pour vous amener jusqu'à 16h20 et le départ de ce prix d'Amérique Legend Race. Dans un instant, ça sera aussi l'occasion de faire un point sur tous les résultats de nos Français dans le journal olympique. On va parler de handball, puisqu'il y a la finale de l'Euro tout à l'heure. Restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
16h19 sur RMC, une balle de break pour Yannick Sinner face à Medvedev dans le 5e set et Eric Salio.
Ouais, c'était peut-être un moment très important dans cette finale. 3-2 pour Yannick Sinner et Medvedev est à 15-40. Attention, il y a un coup droit, pénalty, il ne le met pas. Peut-être une deuxième chance, c'est fait. Break pour gagner pour Yannick Sinner. Incroyable scénario. Il était au bord du précipice il y a une heure et demie. Et là, il a toutes les cartes en main pour aller chercher son premier grand chelem. 4-2 Sinner au 5e.
On va suivre ça de très très près, c'est passionnant cette finale de l'Open d'Australie. On rappelle que ça sera un vainqueur inédit entre Yannick Sinner et Medvedev. On est avec Sébastien Piocel qui lui n'a jamais remporté l'Open d'Australie. En même temps, c'est pas ce qu'on lui demande.
Pas encore.
Sébastien qui suit Montpellier à Lille, 19e journée de Ligue 1. C'est le premier match de ce dimanche avec Julien Landry au commentaire. Julien.
Ouais, 20 minutes à la Mosson, toujours 0-0 entre les deux formations, mais les Montpellierains qui ont eu les situations les plus franches. Seb, sur ces premières 20 minutes. Alors évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir les concrétiser pour ne pas être puni par l'efficacité lilloise, mais le plan de jeu des Montpellierains, pour moi, il est parfaitement en place. On empêche les relances courtes et faciles des Lillois avec un gros pressing des quatre offensifs montpellierains et on essaye d'opérer en contre. Malheureusement, tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné avec Nordin et Savagnier, mais pour le moment, les Montpellierains défensivement sont très solides et ils arrivent à gêner cette première relance des Lillois. Après 21 minutes de jeu, il y a toujours 0-0.
Moi j'aime bien ce qu'il propose, hein. C'est quasiment un 5-4-1 en fait. Dans les couloirs, il y a deux rangées qui empêchent les Lillois de jouer. Et puis surtout au départ des actions, on a du mal à toucher Boidy, on a du mal à toucher André. Après, à voir aussi si sur ce fameux pressing ils arrivent.
Attention,
à tenir.
Attention, Angel Gomez, la réparation. et ça passe juste à côté sur le très bon dribble au départ de Zegrova, qui est le Lillois le plus dangereux, qui a réussi à éliminer Mincarelli, qui a servi Angel Gomez en retrait. La frappe à rouler de l'Anglais qui reste au sol derrière, mais le petit dribble de Zegrova, il est encore une fois exceptionnel. Le contrôle mal, hein, derrière d'Angel Gomez, il est parfait. Mais attention à la sortie du Montpellierin, qu'il me semblait bien être en retard, Christopher Julien.
Alors ouais, on va revoir le ralenti. Il est vraiment
il est en retard, alors que la frappe est déjà partie, hein, le ballon est déjà parti. Mais ça peut être signalé, Sébastien, ce genre de choses.
Ouais, c'est pas un geste maîtrisé, hein, même si ça fait un petit moment que le ballon est parti, qu'il passe à côté. Ouais, il y aura pas pénalty,
quand même,
de s'y fait mal. C'est vraiment c'est la première grosse occasion pour les Lillois. Et encore une fois, c'est comme tu le disais, Julien, c'est souvent Zegrova avec ses petits dribbles là. Il est compliqué à prendre. Et ce ballon en retrait avec le contrôle, je trouve qu'il prend un peu trop de temps aussi, oui, Angel Gomez, pour avant d'armer sa frappe. Et du coup, ça passe à côté.
0-0 en tout cas. Benjamin André, ouais, il est en train de demander à Monsieur El Hadj.
On va peut-être suivre quand même la décision.
Alors on va voir. Alors on rappelle la situation. Angel Gomez, il contrôle la phase de réparation, il frappe, la frappe est non cadrée, et une fois que le ballon est parti, une ou deux secondes après, Christopher Julien vient tout enlever en lui attrapant la cheville. Angel Gomez se relève, mais c'est vrai que tous les Lillois sont autour de l'arbitre, Benjamin André, Jonathan David, pour peut-être réclamer quelque chose, mais Monsieur Elad, j'ai l'air de dire
vérifié, hein.
Non, il n'y aura rien. Le jeu va reprendre. François, 23 minutes à la Mosson, 0-0.
Nous sommes toujours en direct du studio RMC à l'hippodrome de Vincennes en ce jour de prix d'Amérique Legend Race. On va en reparler bien sûr d'ici un quart d'heure, mais d'abord on va continuer notre mag olympique. On est à 180 jours des Jeux, à 213 jours des Jeux paralympiques, et Morgan Maury nous a rejoint. Salut Morgan.
Bonjour à tous.
C'est l'événement aujourd'hui, la finale de l'Euro de hand entre la France et le Danemark, Morgan.
L'équipe de France de hand à quelques heures peut-être d'un quatrième titre européen. Finale à 17h45 contre le Danemark, à suivre sur RMC. Sur place à Cologne dans la Lanxess Arena, Nicolas Paul Orsi. Nicolas, comment Karabatic et ses coéquipiers ont préparé leurs derniers instants avant d'entrer sur le parquet?
De façon assez classique, hein, Morgan, on casse pas une routine, même si c'est jour de finale, la quatrième, tu le disais, de l'histoire de l'équipe de France dans un championnat d'Europe. Alors, le programme, il a été assez succinct, un petit déjeuner libre pour tout le monde. À 11h, il y a une vraie séance vidéo suivie d'une promenade un petit peu pour s'aérer les esprits, le déjeuner dans la foulée, et puis petit à petit, les joueurs vont se préparer pour rejoindre la Lanxess Arena. Il y aura une dernière séance vidéo pour les gardiens de but, pour étudier les tireurs danois, et puis après, on va se lancer dans France-Danemark.
France-Danemark, c'est le champion olympique contre le champion du monde, un classique du handball, Nicolas, les deux meilleures équipes tout simplement.
Totalement, c'est la cinquième fois qu'on joue à ce stade d'une compétition internationale. L'an dernier, les Danois nous ont marqué au fer rouge, défaite 34-29 dans un match dans lequel on avait été totalement dominé. On a posé la question hier au demi-centre Nedim Remili, à quoi s'attend-il pour ce France-Danemark?
On attend un match vraiment haletant, palpitant pour vous. On sait que face à nous, on a deux gardiens de très haut niveau qui font une super compète. Encore une fois, on a les armes pour le faire, évidemment. Hier, on a montré des séquences où défensivement, on a été très, très, très solide. On a les arguments pour faire des gros matchs.
Nicolas Paul Orsi, que l'on retrouvera, Nico, évidemment, pour reparler de cette finale de hand. Ça sera d'ici une petite heure. Morgan, c'est vrai, quand on a allumé notre téléphone, on a eu les alertes ce matin et le golf français s'est vraiment réveillé avec la banane.
Oui, un moment historique pour le golf tricolore cette nuit à Torrey Pines en Californie. Mathieu Pavon a remporté le Farmer Insurance Open. C'est un tournoi du circuit PGA, le circuit américain le plus prestigieux du monde du golf. C'est la première victoire d'un tricolore sur le sol américain. Victoire avec un coup d'avance sur son premier poursuivant. La joie du français au micro de la télé américaine.
Amen. It's on the top, right?
C'est au sommet de ma carrière. Il n'y a pas de meilleur moment que de gagner ici en Amérique. J'en rêve depuis que je suis gamin. Je suis venu ici après le lycée pour m'entraîner, pour me familiariser avec ce qui pouvait être mon rêve. Et j'ai reçu tellement de soutien, notamment de la part de Thomas Levé, l'ancien pro, mais aussi de ma famille. C'est un rêve qui devient réalité pour moi.
All in all, it's just a dream come true.
Alors François, Mathieu Pavon, c'est le fils du footballeur Michel Pavon. Oui. Et ce succès conforte sa place dans les 60 virtuels qualifiés pour les JO. Il était 29e et premier tricolore avant ce tournoi. Et sur son compte en banque, il va recevoir un petit montant d'1 473 000 euros. Pas mal. Aujourd'hui, dans une lettre publiée dans l'hebdomadaire La Tribune, 50 dirigeants du sport français, dont 20 présidents de fédération, apportent leur soutien à la ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Parmi les signataires, Claude Onesta ou Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby. Les dirigeants, à l'aide d'une ministre dans la tourmente, ils sont heureux de travailler avec elle. Voilà le message. Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo.
Amélie, c'est une machine. Vraiment, en termes de ministre, elle se bat tous les jours, elle travaille beaucoup. Elle vient du monde du sport de haut niveau, dans le monde de l'entreprise. Franchement, sur ce qu'elle fait sur le sport, c'est juste incroyable. Donc, je trouve que l'éducation, ils ont beaucoup de chance de récupérer une partie de son travail. Et le point fort d'Amélie, c'est un de ses points forts, en tout cas, c'est qu'elle s'entoure bien. Parce que c'est pas la première fois que le ministère il fait éducation et sport, mais c'est toujours l'éducation qui est devant. Pour une fois qu'on a le sport devant, on va pas se plaindre quand même. Faut arrêter, hein. Faut être content, quoi.
En tennis de table à Goa, en Inde, Félix Lebrun est en finale du tournoi, un tournoi WTT Star Contender. Victoire en demi-finale ce matin contre l'Allemand Franziska, 3-1. En finale, à partir de 14h30, il défiera le Brésilien Calderano, 7e joueur mondial, pour tenter de gagner son 2e titre sur le circuit. Son grand frère Alexis, associé à Jan Anouan, a atteint les demi-finales en double mixte. Et mauvaise journée au Portugal pour les deux sélectionnés olympiques, Walid Kiar et Alpha Diallo. C'est du judo, qui a ressorti dès son premier combat en moins de 66 kilos et Diallo à son deuxième en moins de 81 kilos. On les retrouve le week-end prochain à Bercy pour le Grand Slam, l'un des plus gros tournois de l'année en judo, François.
Effectivement, merci beaucoup Morgane. Le Mag Olympique a retrouvé tous les samedis à 14h et les dimanches à 13h sur RMC.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
13h28 sur RMC, Yannick Sinner tout proche d'une première victoire en Grand Chelem. Eric Salio.
Ah, ça se rapproche. 3 points. Il est à 3 points d'un immense bonheur, l'Italien, puisqu'il mène 5-3 dans cette 5e manche. Il est au service. Donc là, il a vraiment toutes les cartes en main. On le sent très calme, mais évidemment très déterminé. Et en face, Dany Medvedev a remporté sa mise en jeu tout à l'heure. Il était mené 5-2. Mais lui, je pense qu'il a plus une goutte d'essence dans son réservoir. Mais il va se battre jusqu'au bout. Mais là, ça fait 30-0 avec une grosse première gagnante. 30-0 à 2 points de la victoire.
Ah, on va suivre ça avec toi, évidemment.
D'un sacre
Eric,
fantastique. Hein, alors que, croyez-moi, il n'était pas beau à voir après 1h30 de jeu. 6-3, 6-3. On aurait dit un enfant, d'ailleurs, c'est ce que j'ai tweeté. Et comme la fameuse expression d'Éric Dimeco, il est devenu un homme, il est en train de devenir un homme. Yannick Sinner, en train d'aller chercher son titre. Il n'aura rien volé. Il se sera battu lui aussi comme un fou. Il était tout proche de la catastrophe, notamment à 4 partout. 40 à dans la troisième manche, mais il est parvenu donc à tenir. 30-0, bonne deuxième balle avec un revers qui sort de Sinner. 30-15, attention, c'est pas fait encore. Il faut évidemment pas qu'il se tende, l'Italien, car là ça doit évidemment, le cœur doit battre très très fort chez Yannick Sinner, qui est poussé par le public, encouragé vraiment, faut le dire, par la Rod Laver Arena. Et c'est un petit cauchemar quand même pour Daniil Medvedev, qui va peut-être perdre sa deuxième finale ici à Melbourne, la deuxième finale, en ayant mené 2-0, hein, je le rappelle, ouais. Face à Rafa Nadal, il avait mené 2-7-0, il était à deux doigts de faire le break dans la troisième manche, il avait finalement craqué. 30-15 avec un rallye qui s'est installé, et on voit Daniil Medvedev qui se bat comme un fou. 30-1, il remonte à 30-1, Daniil Medvedev, il ne va pas se rendre
comme
ça.
C'est pas terminé pour Medvedev.
De tous les instants, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a dépassé les 24 heures de jeu depuis le début de la quinzaine, avec notamment 3 matchs en 5-7, un contre le Finlandais Russo Vuori, un autre contre Urkacz, et puis le dernier, pas plus tard qu'il y a 2 jours, face à Sacha Zverev après 4h18 de combat. Donc attention, 2 points du match, 30 à Sinner, qui est peut-être en train de se tendre évidemment, parce qu'il voit qu'en face, le mec ne rend pas les armes. 30-1, bonne première, il est très loin Dany Medvedev, coup droit d'attaque, il monte, c'est gagné, 30-40, balle de match. Mais il pouvait rien faire.
Balle de match.
Quand il a plus de jambes, il s'est fait déborder.
Balle de match pour Sinner.
De Yannick Sinner, qui va donc servir pour aller chercher un titre, pour mettre fin à une attente de, tenez-vous bien, 17 395 jours. L'écart entre la victoire d'Adriano Panatta en 76 à Roland-Garros et ce soir, à Melbourne, même si on va bientôt passer au 29 janvier puisqu'il est 23h30. Non, on reste quand même à 17 380 jours. Peut-être à délivrance pour Yannick Sinner. 40-30. Qu'est-ce qu'il va nous faire? La première, elle est dedans. Bon retour de Daniil Medvedev. Medvedev qui s'accroche. C'est une diagonale de revers. Pour l'instant, personne ne prend de risque. C'est Sinner qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit. C'est gagné! C'est gagné! Yannick Sinner qui s'allonge sur le dos. Il remporte son premier grand chelem. Il met fin à une insupportable attente pour le tennis italien. Sinner triomphe en 5 manches fantastiques. 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Medvedev qui vient le féliciter. Quelle finale, quelle finale. On a une pensée pour le Russe qui perd donc une nouvelle finale en ayant mené 2-7-0, en ayant trouvé la victoire. Mais Sinner était trop fort à 22 ans. Il délivre l'Italie. Grande Sinner.
Grande Sinner et grande Eric Salio, merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce moment en direct sur RMC. Le premier titre du Grand Chelem pour Yannick Sinner, vainqueur dans ce tournoi de Novak Djokovic, et la tombeur en 5-7 de Daniil Medvedev. Toutes les réactions bien sûr de ces deux hommes à retrouver sur rmcsport.fr. On reviendra sur ce sacre de Yannick Sinner, le premier donc de sa jeune carrière, lui à 22 ans. Il y a une énorme occasion pour Montpellier face à Lille, Julien Landry.
Ouais, grande Lucas Chevalier aussi à la Mosson parce que la parade du portier lillois sur cette frappe, cette reprise de volée à bout portant de Wahbi Khazri, elle est phénoménale. Alors certes, elle lui arrive dessus, mais à la puissance, attention, la frappe encore une fois de Zuri Chautard et qui a tenté sa chance. Demi-volée à 30 mètres pour Zuri Chautard. Les Montpellierains poussent, ils sont de plus en plus pressants sur la cage des Dogs. Mais alors Lucas Chevalier, Seb, il a sorti une parade phénoménale quand même. Alors certes, elle est sur lui, mais la puissance de la frappe de Khazri, Lucas Chevalier, une magnifique claquette pour concéder le corner. Mais les Lillois sont sous pression après une demi-heure de jeu ici à la Mosson, mais toujours 0-0.
On va suivre le corner avec
Allez sur lui, mais il faut quand même avoir le réflexe hein, parce que ouais, c'est vraiment à bout portant. C'est la reprise de Chautard aussi.
On n'est pas loin d'avoir le meilleur gardien peut-être du championnat de France avec Chevalier.
J'avais juste un truc, Julien, t'as vu sur l'action de Jonathan David où il est signalé un hors-jeu.
En position d'hors-jeu, ouais.
Des fois je comprends pas le corps arbitral, c'est que des fois il y a des hors-jeux de 3 mètres, il laisse aller jusqu'au bout. Et là quand on a revu le ralenti, franchement ça se joue à un millimètre quoi. Donc je peux comprendre aussi l'agacement un peu aussi de Paulo Fonseca qui a pris un carton jaune d'ailleurs
sur la situation d'avance. Si Fabien Galthié cherchait une troisième ligne, Christopher Julien nous a fait un magnifique plaquage et sur sa relance complètement ratée il s'est jeté dans les pieds de Jonathan David, des bras en avant pour le plaquer, alors qu'il y a un nouveau corner pour les Montpellier, le quatrième de l'après-midi avec TJ Savagnier qui va s'en charger évidemment avec son pied droit. Beaucoup de Montpellierains, on a beaucoup de taille dans la défense montpellierienne, notamment c'est frappé vers Accor Adams, mais ça va être dégagé par les Lillois. C'est pas terminé même si le ballon revient dans les pieds de Jonathan David et qu'il envoie le ballon loin devant. 34 minutes à la Mosson, 0-0 entre le MHSC et le LOSC.
Allez, 13h34 sur RMC, on revient tout de suite dans ce studio à l'Hippodrome de Vincennes, studio délocalisé. Pourquoi il ne faut pas rater la 103e édition du Prix d'Amérique? Et ben on vous dit tout dans un instant, restez avec nous avec Sébastien Piocelle, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
Il est 13h37, vous écoutez RMC, vous avez raison, l'Intégral Sport, c'est en direct avec Sébastien Piocelle, en direct de l'Hippodrome de Vincennes tout l'après-midi jusqu'à 19h, parce qu'à 16h20, ce sera le grand départ du Prix d'Amérique Legend Race, 103e édition. On vous explique tout dans un instant avec l'équipe des courses RMC. Juste avant, je vous rappelle que Yannick Sinner vient de remporter l'Open d'Australie en 5-7 face à Daniil Medvedev. Mais d'abord, on va prendre aussi la direction de Montpellier pour le match de Ligue 1, la 19e journée. Montpellier-Lille avec Julien Landry au commentaire.
Le coup franc pour TJ Savagnier, ça va revenir un peu sur les Chautard. La reprise de volée, la parade encore une fois exceptionnelle.
Ouf,
de Lucas Chevalier.
Il est bouillant, Chevalier.
Elle est merveilleuse encore une fois, la parade de Lucas Chevalier, parce que la frappe de Chautard, elle prenait la direction de la lucarne. Et Lucas Chevalier, main dans le sens du but, est parfaite. Il s'est parfaitement détendu, le portier lillois qui maintient les Lillois en vie dans cette partie. Les Montpellierains dominent, poussent, ont les meilleures situations. Le corner pour TJ Savagnier, encore une fois la tête de Christopher Julien, et il y aura une faute signée par l'arbitre. Mais quelle parade tout à l'heure sur Khazri, cette fois-ci sur Chautard. il est monstrueux. Tu disais François, on a peut-être le meilleur gardien. Je pense qu'on peut enlever le peut-être. C'est ouais. le meilleur gardien de notre ligue, hein, Lucas Chevalier.
Je me souviens d'un.
Et celle-là, elle est merveilleuse encore. Hein.
D'un double arrêt contre Metz sur pénalty de Chevalier. C'est pour ça que je dis ça aussi. Quelques mauvais souvenirs.
Et ouais, il prend énormément
ça, ça peut rentrer dans les têtes, ça, quand même. Quand on a un gardien en face qui est en feu, comme Chevalier l'est actuellement.
Attention encore à Adams, la tête au point de pénalty sur ce très bon centre de Téji Savagnier. Ça passera au-dessus de la barre transversale. Mais oui, Lucas Chevalier, il est en train de dégoûter les attaquants de Montpellier.
Ouais, puis il ne faudrait pas regretter hein, toutes ces occasions ouais. Pour Montpellier. Franchement, qui fait une très très belle première mi-temps. Hein. Peut-être l'une des meilleures à domicile. En tout cas, il y a une certaine maîtrise. Ils ne sont pas trop mis en danger, à part sur une ou deux erreurs individuelles. Mais franchement, ils mériteraient d'être devant. Et donc, attention, comme tu le disais, François, le fait de. Bah d'enchaîner au niveau des parades avec Chevalier, ça peut perturber aussi les joueurs offensifs de Montpellier.
On regarde bien sûr de très près, on garde un œil sur ce Montpellier-Lille et tu nous appelles Julien Landry dès qu'il se passe quelque chose. On va accueillir à nouveau Frédéric Kita, Dimitri Blanc-l'œil, lui aussi cravaté, est avec nous. Salut Dimitri. Ah, on t'entend pas, mais c'est parce que le studio RMC, ça va fonctionner. Vous inquiétez pas dans un instant. Il est bien là, Dimitri Blanc-l'œil. On retente.
Normalement, je suis bien là. Salut François, salut Sébastien, salut tout le monde.
Qu'est-ce qu'il est beau. J'ai jamais vu comme ça.
Oui. On a pris les petits plats dans les grands.
Non, mais
ça change du Bermuda en studio.
Oui, ah, c'est vrai.
Donne pas les coulisses, les tongs.
Le jogging des courses RMC le samedi.
Oui, attends, on est sur une radio de sport quand même.
En tout cas, vous les connaissez évidemment, Fred Kita, Dimitri Blanc-l'œil. Si vous écoutez les courses RMC, c'est le samedi de 13h à 14h. Ils sont là parce que c'est un événement exceptionnel. Le prix d'Amérique Legend Race, créé en 1920, devenu un mythe du trot. On sera dans un instant avec Anthony Barrier, mais on va déjà le saluer. Driver, bonjour Anthony.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'RMC. Dans un instant, on va parler avec toi du plateau magnifique. Tu aurais pu en faire partie. Malheureusement, c'est pas pour cette année. Tu ne seras pas sur le prix d'Amérique, c'est ça, Anthony ?
C'est ça.
Bon, on en reparlera un peu plus longuement avec toi, mais d'abord, Dimitri, Fred, la course en direct, on l'a dit, à 16h20, une course retransmise dans de nombreux pays, 36 pays, je crois que j'ai vu. C'est un événement. Dites-nous un peu pourquoi, les chiffres.
Bah effectivement, c'est un événement. Donc, cette compétition diffusée dans de nombreux pays. Qui également accueille un public important sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En général, on a entre 30 000 et 40 000 spectateurs qui sont présents ouais. et qui viennent aussi de nombreux pays, hein, parce qu'il n'y a pas que des Français. Il y a également des Suédois, des Scandinaves, les Norvégiens, des Finlandais, les Italiens, même des Canadiens. Tu as dit que tu en avais rencontré tout à l'heure.
C'est vrai, oui.
Et des Américains qui sont présents. Et c'est une journée importante pour les courses de trot. C'est le championnat du monde de trot attelé. Et également pour le PMU. Et d'ailleurs Mathieu Zaccanini a rencontré ce matin la directrice générale du PMU, Emmanuelle Malcas-Doublet, et elle revient sur l'importance de cette course.
Alors c'est une journée exceptionnelle hein. C'est la journée de convivialité par excellence et c'est l'ADN du PMU hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui on attend près de 40 000 personnes sur l'hippodrome. C'est la plus belle course au monde pour les trotteurs. Et il faut savoir qu'on est très présent hein. Il y a 100 personnes du PMU qui vont accueillir tous les spectateurs pour en faire une journée exceptionnelle, mais aussi plus de 200 personnes dans les 14 000 points de vente partout en France. C'est vraiment la convivialité, le partage pour cette journée exceptionnelle partout en France et sur l'hippodrome de Vincennes. Alors oui, il y a beaucoup d'offres, mais notamment, bien sûr, il y a la course du Quintet, la course du Prix d'Amérique, où il y a une tirelire exceptionnelle de 3 millions d'euros. Mais aussi, il faut savoir que l'année dernière, pour vous donner une idée, sur cette course, il y a plus de 18 parieurs qui ont gagné plus de 100 000 euros. Donc cette année, on espère qu'on va faire mieux et j'ai toute confiance dans le fait qu'on va faire plus puisque je pense que vous le savez, il y a maintenant une nouvelle formule, le Quintet Plus Max, avec une option qui permet de multiplier ses gains par 10. Donc je suis sûre qu'on aura plein de grands gagnants aujourd'hui.
Voilà, effectivement, on est en direct, on l'a dit, du studio RMC à l'hippodrome de Vincennes avec Dimitri Blanc-l'œil, avec Fred Kita. Vous avez l'habitude de les entendre, ils sont ici chez eux, hein. Ce sont les véritables stars. Hein.
Bah oui.
Croisez tout le monde, salut, coucou, hein. On a l'impression que
bah oui.
Tout le monde vous connaît, mais c'est normal.
Bah oui, bah les parieurs, les turfistes, on a l'habitude de les croiser.
Vous un petit peu chez vous. Quoi.
On est bien
chez vous.
C'est une deuxième maison.
On est bien chez vous. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette course, sur le plan sportif, c'est la plus belle du monde?
Tu parles du prix d'Amérique évidemment, parce que la journée est une journée exceptionnelle. Il y en a d'autres aussi dans le planning des courses. Mais le prix d'Amérique, c'est au-delà de la dotation et de la location de course qui est énorme, qui est d'1 million d'euros. C'est surtout que c'est une finale, comme une finale de Coupe du Monde. Bon, une finale de Coupe du Monde entre deux équipes, ils sont deux. Sauf que là, ils sont 18. Voilà, 18 trotteurs qui s'affrontent, sur 2700 mètres. Il y a un système de qualification. Il faut être, on vient pas là par hasard. Ce sont les meilleurs qui s'affrontent. Donc clairement on a la plus belle course de trot attelé du monde en France à Vincennes, et ça se dispute tous les dimanches, enfin tous les derniers dimanches de janvier.
Et ça fait partie aussi bien sûr de l'histoire. Ensuite, quand on remporte le prix d'Amérique, on connaît tous Ourasi. Maintenant, ce nom résonne, hein, parce qu'il a remporté 4 victoires. Mais voilà.
Tout... Et c'est pas le seul, hein, Ourasi qui est quadruple l'heure du prix d'Amérique, mais il y a d'autres vedettes, hein, comme plus récemment Ready Cash, Bold Eagle ou encore Festin Bourbon, qui ont gagné deux fois ce prix d'Amérique au 21e siècle. Et c'est important dans la carrière d'un cheval, bien évidemment, et également pour un propriétaire, un entraîneur et un driver.
Vas-y. Non, j'allais dire d'ailleurs, Anthony Barrier qui est avec nous, j'allais te demander, Anthony, si tu devais citer un cheval dans l'histoire des courses justement qui t'a marqué, il y en a beaucoup, hein, c'est pas forcément le meilleur. On a parlé d'Ourasi, ça peut être Varenne, ça peut être Roquépine, ça peut être d'autres. Qui t'a marqué le plus dans ta carrière ?
J'ai toujours été admiratif de Jacques de Belouet.
C'est vrai que j'aurais pu citer Jacques de Belouet.
Un cheval très complet, athlé monté, qui a une carrière fantastique, c'était un vrai rouleau compresseur. Et il m'a toujours crevé l'écran.
Rappelons qu'il a gagné l'Amérique, le Cornulier.
Oui, deux compétitions, autre montée, le Cornulier, c'est le pendant du prix d'Amérique qui dispute une semaine avant.
Très difficile à gagner les deux, en tout cas.
Alors, l'Eclop, dont il a été disqualifié après, mais il avait quand même gagné l'Eclop en Suède.
Oui, c'est vrai. Hein. Mm. Si on additionne ça dans le palmarès, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait.
Ah, les trois, non, je crois que c'est presque jamais vu.
Anthony Barrier qui est avec nous, driver qui ne sera pas sur le prix d'Amérique, mais qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans le studio RMC spécialement conçu pour l'occasion à l'hippodrome de Vincennes avec Fred Kita et Dimitri Blanc-L'Œil. Messieurs, on va parler bien sûr de ce plateau magnifique des favoris dans un instant, mais il y a un absent. Un grand absent, j'ai envie de dire. On parlait de foot, tiens, c'est le Zidane du trot, on est d'accord, Jean-Michel Bazir.
Oui.
Il ne sera pas là. Il laisse les commandes à son
c'est
fils.
Ça. Ah bah il a choisi, hein. On l'a pas forcé là pour le coup. Hein.
Pour le coup, oui, Jean-Michel Bazir, hein, qu'on ne présente plus. Il a gagné 5 fois Speed America en tant que driver. Il a d'ailleurs le tenant du titre avec Hookerberry qui se présente encore cette année, mais il a décidé de confier les rênes du sulky du cheval à son fils Nicolas Bazir, qui d'ailleurs a qualifié le cheval, hein. C'est Nicolas Bazir qui l'a qualifié lors des précédentes courses, et Nicolas Bazir qui a déjà gagné le prix d'Amérique il y a 2 ans avec Davidson Dupont en étant le plus jeune driver à gagner cette compétition. Mais Jean-Michel Bazir sera bien là dans les tribunes en tant qu'entraîneur.
Il a gagné cet après-midi, hein, parce qu'il y a 11 courses aujourd'hui sur les pommes de Vincennes. Oui. Il a déjà gagné la deuxième, hein. Jean-Michel Bazir, il est là, mais enfin il est pas là, mais il est là quand même, hein.
Quand il est là, en général, il gagne.
Voilà.
Et juste un petit chiffre, ça fait il a participé à cette course pendant 26 années consécutivement. Et donc c'est la première fois depuis 26 ans qu'il court pas en tant que driver, donc c'est un vrai événement.
Un vrai événement de ne pas le voir sur les pistes, mais il y aura donc, on l'a dit, un Bazir aujourd'hui, Nicolas Bazir qui sera là. Et alors, parlons maintenant des favoris, messieurs. Juste avant, on va faire un petit détour par le foot, si vous voulez bien, puisque c'est bientôt la mi-temps entre Montpellier et Lille. Julien Landry avec des Montpelliérains dominateurs sur cette première période, Julien.
Ouais, attention à cette faute de Bouadi, hein. Elle est moche, il va prendre un deuxième carton jaune. Et voilà, les Lillois vont terminer à 10, parce que cette fois, il a fait beaucoup de fautes, Bouadi, en première période. Et celle-ci, honnêtement, Seb, elle est stupide, parce qu'il est loin, il vient ceinturer TJ Savagnier, alors qu'il avait déjà fait une vilaine faute en première mi-temps. Le deuxième carton jaune pour Bouadi, les Lillois qui vont terminer à 10, qui sont dominés. Il y a encore une énorme situation pour Accor Adams qui n'a pas cadré sa frappe. Et Bouadi, lui, il vient laisser ses partenaires. Il a fait les deux fautes sur TJ Savagnier. La deuxième, honnêtement, Serge, je pense qu'il peut s'en dispenser largement, surtout quand t'as pris un premier carton jaune.
Il a 16 ans, donc là aussi, il doit l'éviter. Il doit l'éviter juste avant la pause. Il est vraiment loin, Savagnier,
du but
de Lillois. Et c'est sûr qu'il va prendre ce deuxième jaune. Donc là, il pénalise son équipe pour la deuxième mi-temps.
Attention, on contrôle d'Omeragui dans le centre de réparation et ça va être récupéré par les Lillois avec Zegrova et le bon tacle de Milcarelli. Et la mi-temps est sifflée sur ce ballon perdu par les Lillois. Grosse Montpellierain dans cette première période, l'énorme parade, la double parade de Lucas Chevalier, d'abord sur Wabi Kazri, ensuite sur Joris Chotard, toujours 0-0. Mais les Lillois qui vont terminer à 10 cette partie avec les deux cartons jaunes reçus par Bouadi en première période.
Eh ben, il s'est passé des choses malgré 0-0. On revient vers toi bien sûr pour la deuxième période, Julien, merci beaucoup. On est avec, on l'a dit, Dimitri Blanc-Yol, Fred Kita, avec Anthony Barrier, driver, qui est avec nous et qui fait le plaisir de nous accompagner pour parler de ce prix d'Amérique, Legend Race, donc à 16h20, à suivre en direct sur RMC, à ne pas rater vraiment. Le studio RMC a été délocalisé pour l'occasion à Vincennes. Les amis, parlons des favoris du jour. Qui peut remporter ce prix d'Amérique?
Est-ce qu'on se mouille avant Anthony Barrier ou pas? C'est ça la vraie question.
Anthony,
Anthony, tu veux te mouiller avant nous ou pas? Comme ça, on suit derrière toi, on a juste à dire on est d'accord. Voilà.
Allez, je prends un risque. Je vais peut-être pas être très original, mais j'adore Ampia MediSM.
D'accord.
Voilà, j'ai manqué le chouette peu l'année dernière, qui a gagné les deux grandes courses juste après.
Le numéro 11. Hein,
oui. Voilà, sa préparation a été parfaite. Francky lui a donné des parcours sages tout le temps, en le faisant finir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça peut peut-être être son jour.
Francky, c'est Franck Nivard. Hein,
on est d'accord.
Voilà, mais vous vous connaissez tellement que vous avez tous des petits surnoms.
J'allais dire, est-ce que Francky t'a dit « je suis confiant » tout simplement, toi?
Oh, il n'a pas, ouais, pas besoin de nous le dire.
Ouais, on le voit. On le voit déjà comme ça. Et alors toi, Fred?
Et moi, ça sera Idao Tiar, numéro 12. Alors, c'est le favori. Hein, actuellement, il est proposé à 3,30€ en cote. Cote gagnante. Et voilà, c'est un cheval qui a tenté sa chance l'an passé, disqualifié en début de parcours. Il est un peu plus endurci cette année. Il a gagné ses 6 dernières courses. Il possède le meilleur chrono sur le parcours, hein, ce qui est important. Et voilà, 27 victoires en 37 tentatives depuis sa carrière. C'est un favori logique à mes yeux.
Si vous me le permettez, je vais en citer deux. Voilà.
Non.
C'est un peu facile.
Je te le permets.
Non, mais c'est un peu facile.
Je suis plus sympa que Fred Kita.
Je le reconnais, c'est un peu facile, mais je vais du côté de Fred Kita, le 12. Oui. Idao Tiar, s'il fait sa course, pour moi, c'est le vainqueur. Je vais pas chercher plus loin, mais je trouve très amusant de jouer le 6 Guderi Pré, qui est en train de monter en puissance. Qui pour le coup, bon, lui il reste ferré, c'est un vrai problème. Anthony, tu pourrais peut-être nous le dire. Enfin, quand je dis c'est un problème, pas pour lui, mais je veux dire face à l'opposition, c'est plus dur quand on est ferré. Mais je pense que ça peut être un outsider, enfin c'est pas un outsider, mais ça peut être un concurrent à Idao Tiar ou Ampia MediSM.
Oui, bien sûr, c'est un choix qui a une super chance, qui a très bien gagné le 2100 dans le préparatoire. Et le fait d'être ferré, je pense que pour lui c'est juste un avantage. On a vu plein de grands chevaux gagner avec des fers, Bold Eagle, Ready Cash. Donc voilà, il a quand même été troisième à 5 ans avec des fers aussi, je crois. Donc
faut être de ce bois-là pour gagner l'Amérique, par contre. Hein.
Ah,
comme les Bold Eagle, comme tu le. Comme
bah, oui, bien sûr, mais c'est un cheval qui a prouvé ses. Qui a prouvé le niveau et effectivement il a tout à fait le droit d'être au moins dans les compromis.
Attendez, parce que là bon, il y a peut-être des gens, et sans doute j'espère des gens qui nous écoutent même ici à Vincennes, oui. Et qui vont peut-être commencer à faire leur pari. Personne ne cite, il y a le tenant du titre, on est d'accord.
Oui, le 14 oui. Zuckerberry.
Personne ne le cite, c'est normal.
Mais non, c'est
le
pas normal. Mais
le doublé, c'est pas possible.
Alors, je sais pas, ben moi.
Bah si, le doublé est possible.
Ah mais évidemment, il est possible. Déjà, ce qui change, évidemment, tu en as parlé, Jean-Michel Bazir, c'est une institution, Jean-Michel Bazir. Ouais. Quand il est sur Sulky, t'as un énorme atout avec toi. Voilà. T'as le poids du CV, t'as tout ça. Nicolas Bazir est un très bon driver, il a gagné déjà le prix d'Amérique.
Très jeune,
mais
c'est très
pas.
Jeune.
Mais il a quoi, il a 23 ans,
il a 23 ans,
bah, il va encore monter. C'est pas encore Jean-Michel Bazir. C'est un très bon driver, mais c'est pas encore Jean-Michel Bazir. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça que les gens. Bah, tu sais, les parieurs, ils sont très attachés aux drivers, hein, les parieurs. Hein. Ils ont souvent des chouchous. Et Nicolas, il est très jeune. Le temps d'être un chouchou, il faut le temps qu'il grandisse. Voilà. C'est comme pour les footballeurs, hein, ça prend le temps. Voilà.
Donc, effectivement, il est proposé à 8 contre 1, comme l'année dernière.
Mais il peut gagner. Hein,
il peut gagner.
Mais je répondais à la question pourquoi il peut être potentiellement pas boudé, mais moins joué que ce qu'on aurait.
En tout cas, il n'est pas cité parmi vos favoris.
Ah, bah si, quand même.
Non, mais là, dans ce.
Oui, dans les trois qu'on a donné, effectivement.
Ouais. Ah, bah moi, derrière ce qu'on a cité, moi, je l'aurais mis derrière, voilà. Juste derrière.
Oui, bien sûr.
Oui, parce
il devrait être dans le quintet. S'il a un bon parcours, il va être dans le quintet, normalement.
Oui, parce que son entraîneur, d'ailleurs, Jean-Michel Bazir, a annoncé, quand même, pour ceux qui nous écoutent, qu'il était très chaud. Vraiment, il a dit, franchement, on ne devrait pas être loin de faire le doublé.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir des surprises?
Oui.
Mais vraiment des chevaux qui sortent de nulle part. Alors, ils ne sortent pas tous de nulle part, puisque c'est le plus beau plateau, évidemment, du trot. Mais est-ce qu'il peut y avoir une surprise au prix d'Amérique? Est-ce que ça arrive? Est-ce que, d'ailleurs, ça peut être le cas aujourd'hui?
Alors, déjà, bon, historiquement, c'est déjà arrivé, notamment, j'ai en mémoire, en 2010, le sacre d'Oyonnax à 173 contre 1.
Ouais.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous jouez 10 euros. Voilà, vous gagnez 1700 euros.
Ouais.
Donc c'est la plus grosse cote gagnante. Aujourd'hui, je ne vois pas un cheval gagner à très grosse cote, on va dire. Après, dans un quintet plus, c'est-à-dire dans une combinaison où il faut trouver les 5 premiers, il y a souvent des surprises. Les 4-5e places sont souvent prises par les outsiders, notamment des chevaux qui sont économisés durant un parcours et qui terminent fort. On peut penser par exemple à Inma Rosalas, qui est la moins riche de la compétition, mais qui fait toutes ses courses. Donc pourquoi pas, comme au parcours, prendre une 5e place à très grosse cote.
Bien sûr, elle adore les courses rythmées. C'est une jument qui a un bout très beau vite et qu'on a bien préservé. et ça va être une course pour elle, assurément.
C'est dans les outsiders, c'est celle que tu citerais peut-être en priorité ou pas?
Oui, je pense qu'elle a tout à fait le droit de bien finir et de venir rivaliser avec les premiers. J'aime beaucoup aussi El Meri, on parle pas beaucoup.
Et on sait pas trop comment le situer justement. Comment t'en entends parler toi du côté des professionnels? Parce que rappelons-le, c'est un étranger, c'est un Scandinave. Il vient de courir deux fois.
Il a couru deux fois
voilà. Il monte en puissance, déféré des quatre pieds, Eric Raffin. On a quand même le Sulky d'or en titre. Comment tu vois ça toi?
Il a été second de l'Elite Club il y a deux ans, détonnant. C'était une super performance. Il était très jeune à l'époque. C'est un cheval qui a pris de la maturité, qui s'adapte bien à Vincennes. Eric était vraiment très content de son dernier parcours. Il est déféré des quatre pour la première fois. Je pense que c'est. Il va falloir faire très attention. S'il a une bonne course, attention à lui. Il peut tout aussi bien gagner, j'ai l'impression.
Mince, je l'ai pas retenu.
Voilà, vous savez tout sur en tout cas les favoris, les outsiders de cette compétition. 16h20, on l'a dit, pour le grand départ de ce prix d'Amérique Legend Race. Mais ici à Vincennes, il y a plein d'autres courses, comme tu le rappelais, Dimitri, et des courses vraiment alléchantes et très, très sympas à suivre. Anthony Barrier, qui est avec nous, driver, on l'a dit, tu ne peux pas participer à ce prix d'Amérique. Donne-nous la raison quand même, parce que les gens peut-être se posent la question.
L'hiver dernier, si on se rappelle bien, étonnant, a été atteint de la maladie de Lyme, d'où son bon partant de dernière minute dans cette grande course. Il a eu un bon pic de forme après, mais le gros problème de cette maladie-là, c'est que les chevaux ont des pics de forme. Et on a malheureusement, il est un petit peu plus dans le dur aujourd'hui. Le cheval a perdu pas mal d'état, il a du mal à se refaire.
D'accord.
Donc il est pas du tout à 100%, ni même probablement à la moitié. Donc, bien évidemment qu'on ne pouvait pas se permettre de le présenter aujourd'hui, ne serait-ce que par respect pour le cheval et pour l'entourage.
Et j'imagine que c'est un crève-cœur quand on est driver de ne pas pouvoir participer à cette course.
Bien sûr, parce qu'il a le niveau, il l'a prouvé, il a gagné plein de grandes courses, plein de groupes 1. Donc il avait tout à fait sa place ici, mais c'est vrai que c'est une course qui ne nous sourit pas depuis ces 2-3 dernières années. Donc, on fait le dos rond, on espère surtout qu'il reviendra en forme au printemps.
Alors Anthony, tu nous fais l'amitié d'être avec nous, mais tu vas driver quand même trois fois, là tout à l'heure. La 8e, la 9e et la 10e, si je ne dis pas de bêtises, la suite du programme. Y a qui? T'as Gaïa Dokkan, tu dois avoir Elliot de Chaos de mémoire. Et
oui, Trémont,
voilà. Est-ce qu'il y en a que tu préfères dans ces trois candidatures?
C'est des bons chevaux, des chevaux en forme. Malheureusement, on a tiré des mauvais numéros.
Ah oui, Elliot de Chaos, t'as pas de chance.
Le 8, après, il y a le très bon chevaux, Big Kid Well, Oscar Haley, voilà. Il y a un très bon lot, on va essayer de prendre une petite place. Gaïa Dokkan, la jument a été préparée pour cette belle course, une jument qui adore les parcours vite. Malheureusement, on a tiré le numéro 9, donc va falloir un peu de chance, mais ça serait peut-être pas une surprise de l'avoir si c'est une fin de combinaison. Et puis le cheval d'Alexandre Bisson vient de terminer bon deuxième en se faisant rafler la victoire sous le poteau. Il est en forme. Lui, je pense qu'il a une bonne chance d'être dans les trois premiers avant le coup.
Merci beaucoup, Anthony. Anthony Barrier, d'être passé. Et puis, bonne chance pour cette journée. Dimitri Blanc-L'Œil, Fred Kita, vous restez dans le coin.
Merci, oui, on est là,
évidemment. Il y a le défi hippique dans un instant, donc n'hésitez pas. S'il y a quelqu'un qui veut venir s'installer dans le studio RMC pour faire son pari, essayez de trouver quelqu'un, tiens, pour votre défi hippique tout à l'heure. Et puis, 16h20, n'oubliez pas, bien sûr, la course à suivre sur RMC, ce prix d'Amérique, Legend Race, à ne pas rater, 103e édition. On continue d'en parler sur RMC, ici en direct du studio RMC à l'hippodrome de Vincennes. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
De retour dans l'Intégral Sport avec Sébastien Piocelle. Il est 14h06. Vous écoutez RMC, vous avez raison. C'est un dimanche exceptionnel en direct du studio RMC sur l'hippodrome de Vincennes. Studio délocalisé tout l'après-midi jusqu'à 19h pour être au plus près de l'événement hippique de l'année, le prix d'Amérique Legend Race. Top départ à 16h20 en direct ici et bien sûr sur RMC. En ce moment, c'est la Ligue 1, 19e journée. C'est reparti pour la deuxième période entre Montpellier et Lille, Julien Landry.
Ouais, reparti depuis 2 minutes à la Mosson, toujours 0-0. Un changement côté Montpellierin, la sortie d'Arnaud Norda remplacé par Tanguy Koulibaly. On rappelle que les Lillois sont à 10 avec les deux cartons jaunes reçus par Bouadi en première période. Les Lillois qui ont eu la possession mais qui ont concédé les plus grosses occasions dans cette première période et qui ont été sauvés par un grand Lucas Chevalier, auteur de deux grosses parades devant Cazerie et devant Joris Chota, alors que Benjamin Lecomte finalement n'a quasiment rien eu à faire dans cette première période des Montpellierins, avec un système de jeu très efficace qui arrive à contrecarrer pour le moment les Lillois. Il va falloir maintenant valider ça au tableau d'affichage, 0-0 entre les Montpellierins et les Lillois.
Pas toujours facile quand on est à 11 contre 10 en supériorité numérique de montrer qu'on est justement désormais dans l'obligation de marquer.
Ils avaient été très très bons à 11 contre 11, donc des fois c'est tout le contraire qui se passe. Mais justement par rapport aux 2-3 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a l'impression que les Lillois... on sent un peu plus haut sur le terrain, donc méfiance quand même aux Montpellierains. J'espère qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance.
En tout cas, c'est une journée exceptionnelle de sport puisque vous avez vécu en direct la première victoire en Grand Chelem de Yannick Sinner, l'Italien, vainqueur en 5-7 de Daniil Medvedev dans une finale exceptionnelle à l'Open d'Australie. Et puis ce soir, 17h45, événement sur RMC avec la finale de l'Euro de hand, France-Danemark, avec Siraba Dembélé, notre consultante, et Nico Paul Orsi au commentaire. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous.
On est à moins de 4 heures de la finale maintenant, une ambiance qui promet beaucoup en Allemagne pour cette affiche de rêve.
Ça sera plein, tout simplement. On est sur la compétition où il y a eu le plus de supporters dans l'histoire du handball. Hein. Faudrait refaire un point sur les chiffres, mais apparemment, c'est ce que nous annonce le HF. Donc, ça va être colossal. 20 000 supporters. Je peux vous dire que moi, je dors malheureusement à l'hôtel des Danois. Ils étaient très nombreux au petit déjeuner. Je pense qu'il y aura un petit peu moins de supporters français. Et ils ont bien mangé. Je peux vous le dire, ils ont bien mangé. On était
plus rien
avec eux. Ils sont chauds, on n'avait plus rien à manger. Donc là, je suis un peu sur. Voilà. Je reste un peu sur ma faim, mais non, mais ça va être une ambiance phénoménale avec les deux meilleures équipes de l'histoire, deux générations qui ont envie de tout gagner, les Danois qui nous ont battus l'an dernier en finale du Mondial, et des Bleus qui ont coché cette médaille d'or depuis maintenant un mois et demi en début de préparation. Et puis ça va être l'occasion aussi de marquer l'adversaire au fer rouge avant les Jeux Olympiques dans 6 mois. Donc ça va être un moment fabuleux.
Un moment fabuleux à vivre, bien sûr, sur RMC. Je vous l'ai dit, 17h45. Et Nico, on te retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour justement revenir d'ailleurs sur cette demi-finale de folie contre la Suède et voir bien comment sûr. Les Français se préparent avant ce choc face au Danemark. Je vous rappelle également, bien sûr, que l'on va suivre la Ligue 1 cet après-midi avec à 15h Reims-Nantes, Clermont-Strasbourg, Lorient-Le Havre. Ça sera avec Benoît Boutron. Et puis à 17h05, Toulouse-Lens avant le choc du jour en Ligue 1 à 20h45. PSG-Brest. Et puis il y aura aussi la Coupe d'Afrique des Nations avec les huitièmes de finale, la suite, 18h Guinée-Équatoriale-Guinée, 21h Égypte-République démocratique du Congo. Pour tous les fans de la Coupe d'Afrique des Nations, rendez-vous sur l'appli RMC, la radio 100% CAN qui est faite pour vous avec les matchs commentés en direct et en intégralité. Mais d'abord, on va parler à 14h10 sur RMC de ski et de biathlon sur RMC.
RMC,
la page sport d'hiver.
Dans un instant, on sera avec Antonin Guy, vainqueur de 3 titres aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais d'abord, on retrouve Morgane Maury qui a commenté le Super G de ce dimanche à Garmisch-Partenkirchen. Salut Morgane.
Oh, bonjour.
Il n'y a pas eu de doublé malheureusement pour le Français Nils Allègre qui nous avait gratifié d'une magnifique victoire hier.
Non, pas sur cette piste de Garmisch-Partenkirchen qui n'était pas facile à cause des conditions. Il fait chaud à l'extérieur, de la pluie, neige injectée. 14e position pour Nils Allègre. La victoire est pour le Suisse Marco Odermatt, fâché hier d'une 4e place. Ça ne lui était plus arrivé en Super G depuis le printemps 2022. Donc victoire d'Odermatt, 4e position pour Nils Allègre, premier tricolore. Et Cyprien Sarrazin n'a pas fini la course à mi-course. Il est parti trop loin entre les portes et il a préféré ranger les skis. Il a abandonné. La bonne nouvelle française, François, est venue de Cortina d'Ampezzo en Italie sur une course féminine. Roman Miradoli a pris la 3e place du Super G, son 4e podium en Coupe du Monde. Quelques mois seulement, il y a moins d'un an, elle s'était rompu les ligaments croisés du genou gauche. Sa 2e blessure de ce type sur le même genou. Cet hiver, elle nous confiait qu'elle avait de l'eczéma sur les mains. Tellement elle avait envie de courir. Elle a réussi à appréhender la vitesse. Elle était tout à sa joie. Nous l'avons rejoint il y a quelques minutes. Roman Miradoli, 3e du Super G de Cortina d'Ampezzo.
Je suis encore pleine d'émotions. Je réalise pas trop, quoi. Je réalise pas trop, mais en tout cas, avec hier, je pense que ça m'a quand même. La 10e place de la descente m'a quand même libérée en. Dans le sens où je me suis dit, bon, bah, ça y est, je suis redevenue amie avec la vitesse, quoi. Hier, ça m'a fait vraiment du bien. Et avec le Super G d'Altenmark, plus hier, bah, voilà, c'était encore des kilomètres en plus. Et je me suis dit, bon, ben, ouais, tu peux y aller, quoi. Faut se faire confiance. Et j'ai vraiment réussi à faire mon ski, quoi. Donc c'est cool, ça fait du bien, ça fait plaisir, je suis hyper contente.
Roman Miradoli, donc interrogé par RMC, 3e du Super G de Cortina d'Ampezzo, c'est la bonne nouvelle du jour en ski, premier podium pour une Française cet hiver. Morgane, on a aussi appris l'annulation des 2 descentes prévues à Chamonix le week-end prochain à cause de températures élevées et donc des mauvaises conditions de neige. Mais le slalom du dimanche 4 février est pour l'instant maintenu, donc il n'y aura pas la descente de Cyprien Sarrazin en France malheureusement. On aura d'autres choses à dire, bien sûr, la semaine prochaine. Morgane, si tu veux bien, tu restes avec nous parce qu'on est en direct avec Antonin Guy. Il vient de faire un carton aux Jeux Olympiques de la jeunesse en biathlon. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Bonjour.
Depuis le 19 janvier, ont lieu en Corée du Sud les Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse. Tu as remporté 4 médailles, dont 3 titres en biathlon. Tu es devenu donc à 17 ans l'athlète français le plus titré dans cette compétition qui existe depuis 2010. Est-ce que tu t'attendais à une telle réussite quand tu es arrivé, quand tu as posé tes valises en Corée du Sud ?
Non, je ne m'attendais pas à faire de tels résultats. J'étais venu en Corée pour avant tout prendre de l'expérience et faire des courses qui me ressemblent à mon niveau. Et donc... Je n'avais pas de pression et pas d'objectif de résultat. Et au final, ça fait 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Donc, c'est super.
Bravo à toi, en tout cas, Antonin. Guy, je le rappelle, 17 ans seulement. On a tout de suite fait le rapprochement avec un certain Martin Fourcade, auteur d'un triplé aux Jeux Olympiques 2018 sur cette même piste sud-coréenne. Est-ce que c'est une comparaison qui fait peur ou qui fait plaisir ?
Un peu des deux. Ça fait peur de se comparer un petit peu à Martin Fourcade parce que c'est quand même... la tête le plus titré en biathlon, mais c'est sûr que je suis content d'être comparé à lui parce que c'est quand même l'idole de tous les biathlètes français et c'était un grand biathlète du niveau mondial.
Antonin, est-ce que vous pouvez vous présenter ? C'est votre père qui est militaire, qui a été votre premier entraîneur, c'est ça, donc le biathlon c'est un truc de famille, je crois qu'il était même chasseur alpin.
Oui, c'est ça, j'ai 17 ans, j'habite à Grenoble et je suis encore au lycée de Villard-de-Lans. Et donc oui, j'ai attaqué le biathlon avec mon père qui est chasseur alpin et encore en activité sur la base militaire de Vars. Et donc oui, c'est avec lui que j'ai commencé à tirer, que j'ai eu mes premières expériences et que j'ai fait mes premières courses.
0-0 toujours entre Montpellier et Lille. On y retourne dans un instant en Ligue 1, mais on est avec Antonin Guy, donc qui a remporté 3 titres aux Jeux Olympiques de la jeunesse en biathlon. Alors la suite c'est quoi ? Tu es encore jeune, quand est-ce qu'on peut espérer te voir au JO ? Il y a 2026 en Italie, 2030 en France, peut-être que c'est déjà dans un coin de ta tête ?
Oui, 2026 c'est très tôt, ça arrive
c'est
beaucoup trop vite pouvoir être au niveau. Mais 2030, oui, ça peut être un objectif dans les prochaines années si je continue à avoir des résultats comme cela et continuer à m'entraîner correctement, ça peut être un des objectifs des prochaines années.
François, un élément de comparaison pour Antonin, Jeanne Richard par exemple, qu'on a vu débarquer en équipe de France de biathlon chez les seniors cette année, qui a même gagné en relais il y a 4 ans lors des précédents Jeux Olympiques de la jeunesse. Elle a remporté le relais mix avec son coéquipier masculin, donc elle a mis 4 ans pour basculer des juniors, en gros passer par les IBU qui est le deuxième niveau de compétition en biathlon et arriver sur la Coupe du Monde et y être performant. Donc il faut laisser peut-être 4 ans à Antonin pour le voir chez les grands. C'est peut-être la marge de 29 que tu te laisses, Antonin.
Oui, 4 ans c'est le grand minimum. Après on peut pas prévoir tout ce qui va se passer dans les prochaines années, mais c'est sûr que Jeanne Richard actuellement elle est vraiment au top niveau mondial et cette année elle a fait un gros début de saison et elle a franchi un gros palier, mais 4 ans ça fait un delta qui est très court quand même pour arriver à un niveau comme celui-là.
Bon, on te met pas la pression, t'en fais pas.
Si, moi je vais lui mettre la pression. Morgane, c'est ma spécialité. Non, Antonin, bien sûr, on va pas te mettre la pression, mais il y a une petite pression quand même, parce qu'on, évidemment, on médiatise cet événement, ta réussite et ton succès aux Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse, parce que parallèlement, même si les filles cartonnent cette année en biathlon, c'est plus compliqué pour les garçons. Alors, on a vu qu'Antonin Guigona avait terminé 3e de la poursuite lors de l'Euro, là, cette semaine. Mais forcément... on attend les successeurs de Martin Fourcade, de Quentin Fillon-Maillet. Donc forcément, on se dit peut-être qu'avec toi, on a trouvé ce successeur. Est-ce que ça va pas un peu trop vite ?
Oui, c'est sûr qu'en disant ça, vous mettez une petite pression. Mais non, il y a encore beaucoup de temps. Il y a des jeunes qui performent beaucoup sur l'IBU Cup et des jeunes en Coupe du Monde qui ont un très bon niveau. Donc... la relève, pour moi, je suis certain qu'elle va être assurée et que dans les prochaines années, le biathlon français va revenir à son meilleur niveau en Coupe du Monde.
T'as un regard justement sur ces difficultés actuelles ? Pour toi, c'est juste temporaire ?
Oui, c'est temporaire. On a des athlètes qui sont très très bons. Quentin Fillon-Maillet, on a bien vu au JO de 2020 qu'il avait été super fort. Donc pour moi, c'est juste un passage après les JO. Il y a toujours une ou deux années de... un petit peu moins bien quand la pression retombe, mais pour moi c'est qu'un passage et que on a tous les moyens sur notre côté pour revenir au meilleur niveau.
Antonin Guy en direct avec nous, une dernière question, puisque quand on a 17 ans, j'imagine que tu dois gérer aussi tes études parallèlement au biathlon, bien sûr. Et en plus, c'est l'année du bac, hein, c'est ça, cette année?
Oui, à la fin de l'année, je passe le bac. Donc, j'ai un aménagement avec le lycée. Je fais les trois années de lycée en quatre ans. Donc, c'est assez confortable et ça me permet de faire les deux très, très bien.
C'est quoi le plus difficile? C'est d'être sur les skis en essayant de viser la cible ou de pas se tromper dans sa copie de philo?
Non, le plus compliqué, c'est s'entraîner toute la semaine et toute l'année. C'est sûr que l'école, c'est très bien aménagé et les profs sont tous de notre côté pour que ça fonctionne autant dans le ski que à l'école. Donc le plus important et le plus compliqué, c'est de s'entraîner correctement.
Merci beaucoup Antonin
Guy. Merci Antonin, bravo
d'être venu sur RMC. On voulait absolument faire un gros plan sur toi parce que, je le répète, tu es l'athlète français le plus titré dans la compétition des Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse avec ces trois titres remportés en Corée du Sud en biathlon. Merci beaucoup Antonin et à très bientôt. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler avec toi sur RMC. Merci beaucoup Morgane. À bientôt sur RMC. Montpellier-Lille, c'est en ce moment. On approche de l'heure de jeu, Julien Landry.
Ouais, l'heure de jeu dans 10 secondes et les Montpellierains qui continuent de pousser avec la bonne reprise là d'Akor Adams à l'instant. Alors il était un peu lointain hein, mais l'excellent contrôle de l'attaquant nigérian derrière la reprise de volée en première intention. Lucas Chevalier qui était bien présent sur ses appuis ne s'est pas laissé tromper par cette frappe, alors que là TJ Savanier va prendre un carton jaune. Je pense que c'est pour l'ensemble de l'œuvre des contestations des Montpellierains depuis quelques minutes.
Il est un peu nerveux,
TJ. Ouabi Kazri notamment hein. On a vu 2-3 fois courir vers monsieur Ben El Hadj pour lui montrer son courroux sur des situations où il estimait qu'il y avait des fautes, et notamment sur la dernière. Je pense clairement qu'il est poussé dans le dos et qu'il y aurait pu avoir un coup franc pour les Montpellierains, non sifflé par monsieur l'arbitre. Mais on rappelle que les Lillois sont à 10 dans cette deuxième période avec les deux cartons jaunes de Boadi, que les Montpellierains poussent mais qu'ils n'arrivent pas finalement à se procurer de vraies situations dangereuses.
Il y a un peu moins de mouvement, je trouve ouais. Qu'il y a un peu moins de mouvement du côté de Montpellier, alors que justement ils devraient essayer d'appuyer hein, par rapport à ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Et voilà, du coup les Lillois ils arrivent, ils sont pas très dangereux, mais ils arrivent mieux à contenir, je trouve, les Montpellierains. Il faut qu'ils appuient un petit peu là sur la pédale les Payadins.
0-0 en tout cas. Ouais. Oui, vas-y, c'est Julien.
Physiquement, hein, peut-être aussi. Alors, on sait qu'ils ont fait un gros pressing pendant 45 minutes, les Montpellierains. Et là, Ouabi Kazri, je pense qu'il fait une faute de frustration.
Il a pris le sien aussi. Hein.
Ouais, il a pris le sien.
Aïe.
Celle-là, elle est.
Attention, parce qu'après, sur une. De ne pas se retrouver aussi à 10, exactement, sur des fautes bêtes comme ça.
Celle-là, c'est vraiment une faute de frustration. Voilà, il
c'est pas comme s'ils étaient habitués en plus à s'énerver, non. Les Montpellierains.
Ils sont toujours très calmes.
Ouais, toujours très calmes. 61 minutes de jeu à la Mosson. D'ailleurs, Michel Dagzakaran lui demande de se calmer en disant Ouabi, maintenant, on se tait, on arrête. Sinon, je te sors. 61 minutes, 0-0 à la Mosson entre Montpellier et Lille.
14h20 sur RMC, c'est l'heure du défi hippique.
RMC. Défi hippique.
Avec Dimitri Blanc-L'Œil de retour. Dimitri Blanc-L'œil, sa cravate, désolé, je m'en remets pas.
Quelle classe.
De retour sur RMC, ouais. Parce que c'est son moment. Et oui, vous l'avez compris, le studio RMC délocalisé à Vincennes. Donc il nous invite un petit peu chez lui, en quelque sorte, Dimitri.
Ben oui, ça. François, Sébastien, effectivement. Oui, j'ai mis une cravate. Dans les studios, d'habitude, on ne met pas de cravate. Hein,
non, surtout toi. Surtout toi. Non,
on est à la radio, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, en jogging, ensuite capuche. C'est super. Défi hippique, ça consiste en quoi le défi hippique? Je vais choisir un cheval dans le quartier du jour, et d'ailleurs c'est Prix d'Amérique, tu l'as dit, et l'auditeur que l'on va inviter dans quelques instants va choisir un cheval. S'il finit devant moi dans le quintet, il gagne ce défi hippique, il gagne 10€ de moins à parier, et puis il revient le lendemain. On l'accueille tout de suite, il est avec nous en plateau, c'est Pierrick qui vient nous rejoindre. Salut Pierrick.
Salut.
Bonjour Pierrick.
Alors parle bien dans le micro Pierrick, parce que t'es assez loin, rapproche-toi là.
Salut l'équipe.
Bon Pierrick, tu as choisi qui dans ce quintet alors?
Moi j'ai choisi l'As, Imna Rosa. C'est une jument qui a une capacité à se mettre à plat incroyable. Et je pense que si le parcours et que Léo a un éclair de génie, il peut tous les coiffer au poteau.
Alors il faut savoir que tu as choisi un outsider vraiment, parce qu'il a choisi une cote à 36 contre 1. Voilà, donc en théorie.
Ambitieux dans la vie.
Alors je fais quoi? Est-ce que je prends un favori ou je prends un outsider? Parce que le duel, tu veux quoi? Je prends un outsider?
Moi, j'ai peur de personne.
T'as peur de personne? Ah, il me provoque.
Il
me provoque. Non, bah j'aurais dû. Tu sais que j'aurais dû prendre Ida Outsier, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, oui. Numéro 12. Mais je vais prendre un outsider, justement, pour faire un petit jeu.
Ah, il est joué.
Je vais prendre Joviality, le numéro 17, avec la jument.
jument suédoise, enfin américaine et suédoise, parce qu'elle a couru dans les deux pays. Voilà, elle est proposée à 21 contre 1 pour un duel d'outsider. Voilà, je vais essayer de terminer devant toi. D'accord.
Bonne chance. Bah, écoute, ça va être compliqué, je pense. Hein.
Je rappelle, t'as choisi le numéro 1 et moi le numéro 17 et on se retrouve tout à l'heure, les gars, à partir de 16h15, 16h20.
Bien sûr, 16h20, coup d'envoi de ce prix d'Amérique à suivre sur RMC. Merci beaucoup, les gars.
Allez,
merci
à vous.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Julien Landry, rapidement le temps, le score entre Montpellier et Lille.
64 minutes à la Mosson, 0-0 entre Montpellier et Lille. Et par précaution, on a sorti Wahbi Khazri.
On a bien fait peut-être. Dans un instant, on vous parle de la finale de l'Euro de handball, autre événement de l'après-midi. France-Danemark, une affiche de rêve pour l'équipe de France qui va tenter de remporter le premier titre européen depuis 10 ans. On revient tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport. François Tournet.
14h26, vous êtes de retour sur RMC dans l'Intégral Sport, en direct du studio RMC sur l'hippodrome de Vincennes, toujours avec Sébastien Piocel. Seb qui vient de voir un poney passer, hein, t'as vu? Non, c'est un déguisement, bien
c'est
sûr.
C'est trop petit.
Qui vient de nous voir d'ailleurs, cette petite mascotte, elle a l'air très sympathique. N'hésitez pas, bien sûr, à venir nous voir aussi dans le studio RMC. On est dans le grand hall, là où vous pouvez vous restaurer. Venez nous faire un petit coucou. En ce moment, on suit la 19e journée de Ligue 1 en direct avec le premier match du dimanche en direct. C'est Montpellier-Lille avec Julien Landry. Julien.
68 minutes à la Mosson, toujours 0-0. Les Montpellierains qui ont la balle avec Tanguy Koulibaly qui a remplacé Arnaud Nordin à la mi-temps. Attention à ce ballon perdu récupéré par Goodmanson. Les Lillois qui ont de plus en plus d'espace. C'est parce que les Montpellierains se livrent pour essayer d'aller s'imposer. Goodmanson qui passe, qui va décaler sur le côté droit. Zegrova va entrer dans la phase de réparation sur son pied gauche. Il rentre et le très bon retour de Christopher Julien. Zegrova qui conserve le ballon, qui est contourne la défense. Et la frappe de Zegrova qui passera juste à côté. Personne n'arrive à prendre le ballon quand Zegrova a la balle dans les pieds. Il a taquiné la balle, il a contourné toute la défense des Montpellierains. Il a fait
c'est
dur,
c'est spécial un peu, hein, Julien,
là, il a contourné et puis il a frappé. Et Benjamin Lecomte, je pense qu'il a été ravi de voir le ballon passer à côté.
Bah, ça reste le joueur lillois, quand même le plus dangereux, le plus entreprenant. À chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quand même quelque chose.
Ouais, parce que mais
c'est vrai
que
c'est un peu plus décousu, un peu plus haché. Il y a beaucoup de fautes, hein, beaucoup de cartons aussi.
Ouais.
On sent que c'est nerveux, hein, sur la pelouse.
C'est plutôt inquiétant puisque Montpellier, depuis qu'ils sont à 11 contre 10, ils ne se sont pas vraiment procurés d'occasion nette, hein, j'ai l'impression, Julien.
Non, très peu. Alors, il y a eu un temps fort de 2-3 minutes, mais Lucas Chevalier n'a pas eu grand chose à faire dans cette deuxième période, contrairement à la première mi-temps. Attention à Guéguin avec ce ballon perdu. Et Lillois, encore une fois, les Montpellierains qui s'expose et le ballon qui va être récupéré par Joris Chautard. Non, finalement c'est Jonathan David. Oui, beaucoup de fautes, beaucoup de tensions, mais un score finalement classique quand Montpellier reçoit un gros cette saison à la Mosson. 0-0 contre Rennes, 0-0 contre Lys, 0-0 contre Lens. On se dirige peut-être encore une fois contre un 0-0 avec toujours le même scénario, des Montpellierains qui ont souvent dominé ces parties-là mais qui ont eu du mal à concrétiser leur temps fort. Et encore une fois ce soir, Seb, les Montpellierains, s'ils menaient au score, il n'y aurait rien à dire, hein. Sans un grand Lucas Chevalier, ils pourraient même être devant, mais pour le moment 0-0 Lucas
Chevalier.
Ils ont du mal à
finir leurs actions, hein. C'est une grosse problématique, hein, pour les joueurs de Michel Dazakarian. Et puis comme il y a une grosse débauche d'énergie aussi, bah, derrière ils s'exposent. Et voilà, c'est une équipe qui a de la qualité. On sent quand même que c'est cohérence ce qu'ils proposent à chaque fois. Mais ils sont sur un fil et c'est pour ça qu'ils sont dans une position un peu délicate au classement.
Est-ce que Lille, là, ils ne peuvent pas pousser un petit peu, justement, parce qu'on rappelle qu'il y a un enjeu au classement. Les Lillois, ils peuvent se rapprocher et même être à égalité de points avec Brest, hein, qui est troisième du classement, en attendant le match ce soir de Brest au Parc des Princes.
Après, quand tu es à 10 contre 11 aussi...
Tu joues le 0-0 là jusqu'à la fin, là, avec 20 minutes.
Je pense que sur le terrain, ils doivent sentir qu'il y aura peut-être une opportunité ou deux. Il faut la jouer à fond, peut-être à un moment donné faire rentrer Yajitse aussi, mais il faut garder un certain équilibre. Là, ils sont en 4-2-3, on va dire. Il n'y a plus vraiment de numéro 10, hein, parce que Angel Gomez est redescendu. Donc à voir, il reste 20 minutes. tout en étant comme ça, je pense qu'ils auront, ils auront quand même une ou deux opportunités. Donc ça sera
attention à la balle récupérée par les Montpellierains avec FT. FT, le petit ballon en retrait peut-être. Non, FT la garde, la frappe. Il aurait dû la donner. Il aurait dû la donner. Le Suisse, FT, oui. À Koulibaly.
Ouais, au deuxième poteau.
Ouais, il y avait encore Adamson.
Il y avait Adam s'il était tout seul en retrait. Ouais, il y avait vraiment. Alors,
ouais, il y avait vraiment.
C'était bien de fixer, hein, parce que bon, là, ça permet de créer un peu des espaces.
Il y avait
après, il va juste. Ouais, compliqué après. Il a plus d'angle.
Et il s'est trop avancé après FT, mais ils étaient CAC Montpellier dans cette phase de réparation pour peut-être conclure. Allez, le corner pour Téju Savagnier, le quatrième dans cette partie avec Esteve, Julien, Adams, les grands gabarits Montpellier. Finalement, on la met en retrait vers Théo Saint-Luz qui contrôle la frappe de Théo Saint-Luz enroulée. Ça posera pas de problème à Lucas Chevalier. Quand on a vu la parade sur la frappe de Chautard, celle-ci, c'est cadeau pour Lucas Chevalier.
Oui, c'était presque une petite de la poitrine, passe. Il aurait pu.
Ouais, carrément. Ouais,
il n'est pas très chaud, Théo Saint-Luz, encore. Il vient juste de rentrer. Donc, c'est
là, normalement, c'est la spéciale avec Wahbi Khazri. Quand Wahbi Khazri est sur la pelouse, c'est censé pour la reprise de volée de Khazri. Mais là, cette fois-ci, c'était Théo Saint-Luz qui a contrôlé et derrière frappé. Encore 18 minutes à jouer à la Mosson, 0-0 entre Montpellier et Lille.
Et je vous rappelle aussi qu'à partir de 15h dans l'intégrale foot avec Benoît Boutron, ce sera Reims face à Nantes, Clermont-Strasbourg, Lorient-Le Havre, voilà les trois affiches de l'après-midi. 17h05, Toulouse-Lens. Et puis le choc du jour, 20h45, PSG-Brest, bien sûr, avec le studio délocalisé, pour le coup, au Parc des Princes, l'after dans la foulée. Et puis l'after Cannes, n'oubliez pas, à partir de 1h du matin également, pour revenir sur les huitièmes de finale de la journée. Guinée-Équatoriale, Guinée à 18h et Égypte-République démocratique du Congo à 21h. On va parler de hand maintenant et retrouver Nicolas qui est de retour. Bonjour Nico.
Rebonjour François.
Juste pour te dire, puisqu'on parlait effectivement avec toi de cet engouement en Allemagne pour cette finale magnifique entre Français et Danois, ce serait quand même dommage d'être stoppé en finale après le moment d'histoire vécu en demi-finale avec ce tir d'Elohim Prandi que toi-même tu as commenté en direct, c'était vendredi sur RMC.
La Suède mène 27-26. La sirène a retenti. Mais on a un dernier tir. Un coup franc protégé. Elohim Prandi face à 6 joueurs suédois regroupés.
On a tiré face à 6 joueurs et marqué face à 6 joueurs.
C'est impossible. Elohim Prandi, le but, ouais, le but énorme. Le but, Elohim Prandi. Oh maman, maman, Elohim Prandi. Il a cassé le but. Prolongation. Oh,
incroyable. Alors déjà, il faut que tu te sois remis de ces émotions, mais surtout les joueurs, il faut qu'ils se soient remis de ces émotions dingues. Est-ce qu'ils sont redescendus de leur nuage? Parce qu'il y a une finale évidemment à préparer contre le Danemark aujourd'hui.
Ça va être le gros enjeu de cette finale. Et c'est vrai que on s'est tous posé la question hier matin quand on a retrouvé les joueurs de l'équipe de France quelques heures seulement après l'exploit. On s'est demandé s'ils allaient pouvoir switcher vraiment sur cette finale, digérer tout ça, et on a posé la question à Nedim Remili.
Pour être honnête, on s'est encore réveillé ce matin avec Dylan dans la chambre et il m'a regardé, il m'a dit mais on a rêvé, non? On est en train de se tourner vers cette finale parce que voilà, l'année dernière on avait fait une grosse demi. Peut-être qu'on était trop fiers de cette demi et pas assez préparés pour cette finale. Mais voilà, aujourd'hui on essaie vite de se tourner vers ce qui va se passer demain. Puis on va chercher l'or. Hein.
On va chercher l'or, voilà ce qu'a dit Rémilly. Et ça nous rassure évidemment. Bien sûr, après avoir fait cet exploit, il ne faut pas s'arrêter là. Même si Nico, évidemment, en face, ce sont les Danois. Et on les connaît bien, ces Danois, parce que c'était l'affiche de la finale du Mondial l'an dernier, remportée par les coéquipiers d'Hansen.
Oui, France-Danemark en finale, ça devient un classique. C'est la cinquième fois qu'on s'affronte lors d'une finale d'une grande compétition. Et c'est vrai que l'an dernier, on avait mal digéré cette demi-finale. Nedim Remili en parlait et on s'était fait marcher dessus. Le mot est un peu fort, mais en tout cas, on n'avait jamais vraiment été en mesure de battre ces Danois. Défaite 34-29. Cette équipe de France, elle a une particularité quand même, c'est qu'elle est revancharde. On l'a vu lors du tour préliminaire, on les enterre. Après un match nul face à la Suisse, ils sont allés dominer l'Allemagne devant 17 000 Allemands fous furieux à Berlin. Il y avait un match contre l'Islande qu'ils avaient coché parce que deux ans plus tôt, l'Islande avait un peu manqué de respect à la France, alors que les Français étaient amoindris par des cas de Covid. Donc voilà, là ils sont revanchards par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Et quand cette équipe-là est dans cet état d'esprit-là, on peut vraiment penser qu'elle peut renverser les montagnes. Mais attention, hein, c'est vraiment un match 50-50. Ça va jouer sur un petit détail, sur un ballon, sur un arrêt de gardien, sur une défense. Donc ça va jouer vraiment à rien.
Voilà pour les Français face aux Danois. Il y a une petite question quand même que je voulais te poser, Nico. C'est Melvin Richardson, il sera là?
Non, Melvin Richardson n'est pas là. Il a quitté le groupe hier matin. Sa femme attend leur premier enfant. Elle était
Une bonne raison. Coucher,
donc il a quitté le groupe. Oui. Voilà. Après, Melvin Richardson n'avait pas un temps de jeu très important depuis le début du tournoi. C'est un joueur de rotation, un joueur de complément. Donc c'est une cartouche en moins dans les rotations de Guillaume Gilles pour cet après-midi, mais ça va pas vraiment impacter la finale, je pense.
On ne sait pas ce qui est le plus difficile d'ailleurs, affronter les Danois en finale de l'Euro ou ce qu'il attend avec son enfant là, en bas âge. Hein. Tu sais de quoi je parle bien sûr, Nico.
Ouais, bien évidemment. Moi je connais la réponse François, mais je ne la donnerai pas à ma vie.
Non, t'as raison, parce que ta femme t'écoute. Merci Nico en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Et bien évidemment on te retrouve avec Siraba Dembélé pour les commentaires de ce match 17h45, la finale de l'Euro à ne pas rater sur RMC. France-Danemark, c'est vraiment un choc, un classique du handball, et donc ça ne sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Le temps, le score, Julien, entre Montpellier et Lille, le match de la 19e journée de Ligue 1.
13 minutes encore à jouer à la Mosson, deux changements côté lillois, la rentrée de Yacidje et surtout la rentrée d'Adamounas, éliminé prématurément de la CAN avec l'Algérie, qui a fait son retour cette semaine et qui vient donc de faire son entrée. Seb demandait des joueurs peut-être à vocation offensive pour les Lillois, pour aller forcer la décision. Écoutez, ils sont là, peut-être que les Lillois vont aller chercher la victoire. 77e minute, 0-0.
Et on suit ça avec toi, bien sûr, dans un instant. Vous ne raterez rien en restant sur RMC, studio délocalisé à l'Hippodrome de Vincennes. Restez bien avec nous, avec Sébastien Peussel dans l'Intégral Sport. A tout de suite.
RMC, Intégral Sport, François Pinet.
14h40 sur RMC, l'Intégral Sport qui se poursuit en direct de l'Hippodrome de Vincennes pour être au plus près de l'événement hippique de l'année, le Prix d'Amérique, ce dimanche 16h20, à suivre en direct et en intégralité sur RMC. C'est la course mythique du trot. Bien sûr, il y a beaucoup d'événements cet après-midi, les événements qui se bousculent, puisqu'il y aura également à 17h45 la finale du hand entre la France et le Danemark. On est avec Sébastien Piocel, si vous voulez le voir d'ailleurs en chair et en os, Sébastien Piocel, n'hésitez pas, hein, le studio RMC ouvert à tous.
En chair.
Donc n'hésitez pas. En chair surtout. Surtout en chair en ce moment. Sébastien Piocel. Non, t'es quand même encore affûté hein, pour un ancien joueur. Sébastien qui est concentré pour la fin du match entre Montpellier et Lille, que l'on suit avec Julien Landry. Montpellier et Lille.
8 minutes, 0-0 entre les deux formations. Les Montpellierens qui ont eu une nouvelle situation, encore une fois par FT, le latéral droit suisse, recruté au mercato d'hiver, qui est souvent dans la surface de réparation des Lillois. Bien servi par Accor Adams. Tout à l'heure, il n'avait pas forcément bien joué. Cette fois-ci, il a frappé, mais droit dans les gants de Lucas Chevalier, qui a encore fait.
Trop facile pour Chevalier.
Ouais, ça, c'est des arrêts trop faciles pour lui. C'est vrai qu'il est capable de faire des arrêts tellement compliqués que celui-là. Après, il arrivait très fort, hein, quand même, Seb. Il fallait être vigilant. Mais c'est vrai que les Montpellierens se sont procurés 4 ou 5 situations franche dans cette partie, mais qu'il y a toujours 0-0. Le ballon récupéré par Zegrova. Il y a de l'espace devant lui. Ah, il n'a pas servi Yacidje alors qu'il était parti à la limite du hors-jeu. Les Lillois qui n'ont pas de situation, mais dont ils sont de plus en plus présents. Ils se rapprochent de la cage de Benjamin Lecomte avec Benjamin André pour Angel Gomez, avec Benjamin André qui décale sur le côté gauche. Alexandro pour Adamounas dans la phase de réparation. Les petits crochets, les passements de jambes, ça revient pour Yacidje. Attention! Et il a signalisé un poser hors-jeu pour Yacidje, alors qu'il avait trouvé les chemins défilés de Benjamin Lecomte sur cet excellent travail d'Adamounas. Mais là encore une fois, Seb, tu disais tout à l'heure, on a levé le drapeau très vite, hein, de la part de l'arbitre assistant. Alors il est évidemment certain de sa décision.
Ils ont fini l'action quand même ou pas, parce que là on revoit les passements de
jambes. Il avait marqué Yacidje mais il est bien en position de hors-jeu.
Il avait trouvé le petit espace entre le poteau et Benjamin Lecomte. Montpellier s'en sortent bien sur ce coup-là. Encore 7 minutes à jouer, 0-0 entre les deux formations.
Et on va suivre bien sûr cette fin de rencontre à suspense entre Montpellier et Lille. Je vous rappelle qu'à 15h dans l'intégral foot avec Benoît Boutron, Reims-Nantes, Clermont-Strasbourg et Lorient-Le Havre, voici les affiches que vous allez pouvoir suivre en compagnie de Sébastien Piocel. On va s'intéresser à ce Reims-Nantes avec Arnaud Valadon qui est en direct de Reims. Salut Arnaud.
Salut François, salut Sébastien, salut à tous.
Salut Arnaud.
D'abord donne-nous les compositions de ces deux équipes.
Avec du côté rémois, beaucoup de joueurs à la CAN hein, et aussi à la Coupe d'Asie avec Ito et Nakamura. Ça donne donc Diouf dans les buts, Agbadou Okoumou en défense centrale. Deux se mettent à gauche, Fouquet à droite. Un milieu à trois avec le jeune Amadou Koné associé à Teddy Thomas, le meilleur rémois cette saison. Et Wilson S. Brand, d'habitude latéral gauche, mais repositionné un cran plus haut. Et les trois attaquants avec Reda Kadra en position plutôt numéro 10. Et Darami Salama devant. Côté nantais, eh bien, on bricole notamment pour le couloir gauche en défense, puisque Merlin est parti à l'Olympique de Marseille. Ça donne Lafond dans les buts. Zézé Comert en défense centrale. Amiens à droite. Et donc Jean-Kévin Duverne en position de latéral gauche. Les trois milieux, Gusto, Sissoko, Chirivella, le capitaine. Et les trois attaquants, Coco, Kadewere et Mollet. Donc pour le FC Nantes qui n'est qu'à 2 points devant l'Olympique Lyonnais. Cette place de barragiste. Nantes qui ne gagne plus un match en Ligue 1. 4 défaites de suite. Et qui a été éliminé en coupe face à Laval.
On a vu que Reims aussi se débrouillait plutôt pas mal, même s'ils ont été éliminés en coupe. Malgré les absents, ils s'étaient imposés.
Et le départ de Matoussi, ouais.
Non, mais là, c'est Nantes en face. Non, mais c'est vrai que moi, c'est pareil. Hein, Reims qui fait vraiment une très belle saison. Bon, là, ils ont perdu Matoussiwa qui est.
C'est un joueur important, très important au milieu de terrain,
donc qui est dans l'équilibre notamment, très bon techniquement. Voilà, bah, c'est le genre de match pour les Rémois qu'il faut gagner absolument justement pour être dans ces potentielles places européennes en fin de saison face à des Nantais qui sont en pleine crise. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, crise aussi de résultats depuis l'arrivée notamment de Jocelyn Gourvennec, et puis il manque aussi des joueurs. Donc ça semble un match quand même déséquilibré malgré les absences du côté de Reims.
Le corner à Montpellier-Lille, Julien Landry.
Frappé à deux avec Ferry pour TJ Savagné qui tente sa frappe au premier poteau et ça va être contré par les Lillois qui vont repartir en contre avec beaucoup d'espace devant Zegrova. Zegrova face à trois Montpellier, on sait qu'il est capable d'éliminer, mais la très bonne défense de Théo Saint-Luce qui ne s'est pas laissé piéger par les dribbles de Zegrova. Le ballon récupéré par TJ Savagné, mais le bon retour des Lillois. Il va falloir reconstruire pour les Montpellier pour essayer d'aller marquer ce but en fin de partie. Encore 4 minutes à jouer, 0-0.
On remercie Arnaud Valadon d'être passé, que vous retrouverez à 15h bien sûr pour ce Reims-Nantes. On va parier tout de suite sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Johan Guillet de la rédaction des Paris RMC. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Salut.
Alors, quelles sont les cotes de ce Reims-Nantes?
Elles sont pas mal, hein. C'est 2-0-5 la victoire des Rémois, 3-30 le nul, 3-90 le succès nantais. Alors évidemment, il y a des absents de part et d'autre, mais la dynamique est bien différente. Je serais bien tenté de vous proposer une victoire de Reims à domicile à 2-0-5, la cote est très belle. Sinon, pour me couvrir, Reims qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, et ça c'est coté à 2-15.
Je suis pas sûr qu'il soit d'accord, Seb.
Non, tu penses?
Non, mais je comprends les arguments de Johan, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vois bien Nantes ne pas perdre. C'est le cœur nantais qui parle.
C'est
une petite surprise quand même. Voilà, les Rémois, ils viennent de se faire sortir aussi en Coupe de France. Je me dis que
Nantes ne perd pas.
Et puis avoir un latéral droit qui joue latéral gauche, c'est toujours embêtant pour les adversaires.
Pour la défense aussi.
Et puis Coco joue devant, quoi, parce que c'est quand même son poste.
Ah oui,
de base,
c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Bon, d'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr. Merci beaucoup, Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Reims, Nantes, Clermont, Strasbourg, Lorient, Le Havre, c'est à partir de 15h. Mais d'abord, on se concentre sur la fin de rencontre entre Montpellier et Lille. Il peut encore se passer des choses, Julien Landry.
À 2 minutes 30 à jouer. Le ballon pour les Montpellierains avec Chautard qui est décalé. Toujours 0-0 sur le côté gauche. Théo Saint-Luce, le centre vers le point de pénalty. Et la très bonne sortie de Lucas Chevalier qui aura fait un match parfait ce soir, notamment en première période avec ses deux énormes parades sur Wahbi Khazri et sur Jory Chautard. Les dernières minutes avec Lucas Chevalier qui trouve Lenny Yoro et Alexandro pour des relances toujours courtes de la part des Lillois, même si on prend moins de risques. Et dans cette fin de partie, en première mi-temps, on a toujours tenté des relances courtes. On s'est souvent heurté au gros pressing des Montpellierains. Là, on prend moins de risques et les Lillois conservent le ballon, font tourner la balle avec notamment Ismaili. Ismaili, attention à cette balle en retrait pour Alexandro qui repasse avec Lucas Chevalier. Le pressing d'accord Adams et Lucas Chevalier qui va aller loin devant chercher Zegrova qui attrape Théo Saint-Luce par le bras. Il s'est mis à la faute et ça va offrir un coup franc aux Montpellierains. En tout cas, rendre le ballon au Payadin avec Jory Chautard. On est sur la ligne médiane. On a fait un dernier changement côté Montpellierain, c'est la rentrée de Jordan Ferry à la place de Christopher Julien. On est passé à 4 côté Montpellierain et TJ Savagnier qui joue en point de passe.
Et je trouve que il a quand même tardé Michel Darzakarian à passer à 4. Enfin, c'est mon avis. Après, je peux comprendre. Tu peux aussi jouer à 3 et puis bien animer tes couloirs. Mais dans l'entrejeu, ça aurait été intéressant de passer à 4 un petit peu avant.
C'est vrai, il est passé il y a 5 minutes avec la rentrée de Jordan Ferry et la sortie de Christopher Julien. Ils sont passés à 4. C'est vrai que du coup, il y a Guéguin sur le couloir droit, Koulibaly et
il y a Guéguin.
Il y a Guéguin. Guéguin. Ah. C'est le jeune Axel Guéguin sur le couloir gauche. Mais après,
il n'y avait pas beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde.
Il n'y avait pas non plus beaucoup d'attaquants sur le banc côté Montpellierin pour essayer d'apporter du poids devant avec la rentrée de Koulibaly à la mi-temps. Il y a Yeboa, mais il ne répond pas forcément aux attentes de Michel Derzakarian depuis son arrivée. Donc c'est vrai que là, il y a un peu plus de monde sur les couloirs. Mais il va falloir animer. Il y aura sûrement une dernière situation, peut-être de chaque côté. François, on va rentrer dans l'international d'ici 30 secondes. Toujours 0-0 entre les deux formations.
Non mais là il ne peut pas être satisfait de ce qu'il voit quand même. Michel Derzakarian à 11 contre 10 pendant une mi-temps, et ce sont les Lillois qui sont les plus dangereux, à l'image ici encore de Zegrova, Julien Landry.
Ouais, le centre, mais qui va être récupéré par les Montpellierens avec TJ Savagnier qui essaye de se projeter, qui va changer le sens du jeu sur le couloir droit avec Efti qui va lancer dans la profondeur Koulibaly face à Ismaili, et le dribble perdu par l'ancien Titi parisien, récupéré par les Lillois au milieu de terrain avec Alexandro qui va sortir proprement de son camp. Le
Il y a des espaces, hein.
De Joris Chautard des deux côtés, mais c'est vrai que les Montpellierens se livrent de plus en plus avec Joris Chautard qui cherche des appels, mais personne ne se propose. On va donner ce ballon à Jordan Ferry qui va essayer de décaler. Non, finalement il repique dans l'axe, mais pas beaucoup de mouvement de la part des Montpellier. Et même là, si la Coradam s'est servi à l'entrée de la phase de réparation, il essaye de se retourner avec ce contrôle orienté, mais bien pris par Lenny Yoro. Le ballon récupéré, il y aura 3 minutes additionnelles. Le ballon lancé dans la profondeur vers Zegrova, et encore une fois Théo Saint-Luce qui aura fait lui aussi une bonne rentrée sur son couloir gauche, alors que là Michel Derzakarian venait de récupérer le ballon et malinement le porte. Le coach qui va remettre le ballon sur le terrain pour empêcher les Lillois de jouer rapidement.
Ça va faire du bien à Montpellier aussi quand même, le fait que Théo Saint-Luce soit de retour des ligaments croisés. Ça va donner aussi une possibilité, que ce soit à 5 ou à 4. Hein. Là-bas, c'est un joueur qui était milieu gauche, hein, et qui était redescendu un peu plus bas au niveau olympique, et qui a aussi de la qualité.
Et c'est vrai qu'il avait fait notamment, et lorsqu'il est arrivé à Montpellier sous Olivier Dalloglio, un excellent début de saison avant de se blesser, tu l'avais dit, au ligament croisé du genou. Alors il faut s'y remettre, hein. Il est revenu à la compétition, là il s'était fait mal à la cheville, mais c'est vrai que ça va apporter le gros tac de Yacidje pour récupérer ce ballon avec Benjamin André. Encore 1:30 à jouer, le ballon pour les Lillois avec Santos qui garde le ballon dans son couloir droit, qui retrouve dans l'axe, dans le rond central, Benjamin André qui cherche lui aussi du mouvement. On sent que les Lillois, ils se contenteraient eux de ce point de bonus, de ce point du match nul, je veux dire, même si Adamounas, la frappe d'Adamounas qui aura fait une bonne entrée, qui aura été dangereux. Et avec Adamounas, Seb, il y a aussi du danger. Il y avait beaucoup Zegrova en première période, mais Adamounas a été dangereux sur le dernier quart d'heure où il a pu faire son entrée. On sent que voilà, il est percutant et que lui aussi peut apporter du danger. La dernière minute à la Mosson, le ballon pour Zegrova avec Yacidje, la frappe, elle est enveloppée. Il avait vu Benjamin Lecomte avancer, elle sortira directement.
C'est
en 6 mètres.
La dernière minute à réaliser ça.
Et oui, Lille qui montre de bonnes choses là sur cette fin de rencontre. Hein.
Ils ont quand même des joueurs offensifs qui sont capables de faire des différences. Et puis ils ont quand même réussi à. Je trouve qu'ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps que.
Complètement.
À 10 contre 11. Et ils ont trouvé l'équilibre. Après, c'est sûr qu'ils vont se contenter de ce point, même si avec les 3 points, on le disait tout à l'heure, ils seraient revenus à hauteur de Monaco et de,
ouais,
et
là
de
Brest. Pour l'instant, il reste à 2 points de Brest et de Monaco avec 32 points, alors que les Montpelliérains sont toujours 12e avec 19 points, les Montpelliérains, qui vont encore enchaîner peut-être un nouveau nul à domicile. Hein. Je crois que ça fait depuis le mois d'octobre qu'ils n'ont pas gagné.
Une seule victoire à domicile, c'était contre le TFC à la fin du mois d'octobre. Et c'est vrai que ça va être le septième match nul à domicile déjà pour les Montpellierens cette saison. Le cinquième 0-0. Allez, la dernière offensive peut-être pour les Montpellierens avec Omeragic qui récupère ce ballon. Et Monsieur El Hadj qui ne laissera pas les Montpellierens aller au bout de cette situation, qui va siffler à la fin de cette partie sur ce score nul et vierge annoncé dans les paris RMC à midi et demi.
Oui.
Je me jette une petite.
C'est vrai, bravo. Julien, c'est vrai, à réécouter en podcast, bien sûr.
Cote à 9 pour les matchs nuls, 0-0. Et JC avait dit, tu vas t'ennuyer, j'avais dit, mais on peut avoir des bons 0-0. Je trouve que c'est un bon 0-0, évidemment. Oui. Je tiens beaucoup à la performance de Lucas Chevalier, surtout auteur de deux parades exceptionnelles en première période.
C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Julien, à bientôt sur RMC. Sébastien, un bon 0-0, toi aussi t'es d'accord ou...
Non, c'était intéressant. Il y a eu des, moi j'ai trouvé que la première période était plus animée. Et après, les Lillois ont réussi à gérer, mais il va y avoir de la déception du côté des Montpellierens. Ils sont quand même dans le dur au niveau du classement.
Et on attend évidemment les réactions, notamment de Michel Derzakarian, de Fonseca aussi côté Lillois, à retrouver sur rmcsport.fr. Bien sûr, tu restes Sébastien. Gentil. Moi, je vais aller faire un tour du côté de l'hippodrome de Vincennes pour aller voir ce prix d'Amérique. Que vous allez commenter, messieurs, avec Benoît Boutron, à qui je laisse la main dans le studio RMC délocalisé pour l'occasion. Salut Benoît.
Salut François. Seb, tu restes là. Eh oui, on change de driver, mais on continue autour du prix d'Amérique Legend Race. 16h20, le rendez-vous.
On change pas de cheval.
Et puis, trois matchs qui vont démarrer à 15h. C'est vrai que tu pourrais être l'étalon. L'étalon de RMC Sport.
Il paraît.
Trois matchs qui vont démarrer. Lorient-Le Havre, Reims-Nantes, Clermont-Strasbourg. Info importante à Lorient. Les joueurs qui se comportent comme des stars sont écartés. C'est Loïc Ferry, le président,
comme à RMC.
On vous donne toutes les infos avec Pierre-Yves dans un instant. À tout de suite.